Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le 41e épisode de la saison 6 de Vue du banc. Un épisode un peu particulier, parce qu'on va se détacher légèrement de l'actualité, des matchs, de ce qui se passe sur le terrain à proprement parler, pour refaire le jeu du directeur sportif. Un jeu auquel on a déjà joué plusieurs fois dans l'histoire de Vue du banc. Le principe, c'est de s'imaginer à la tête de plusieurs clubs qui ont besoin de se renforcer, de combler des trous, de faire progresser certains postes. Et dans cette optique, dans ce but, je suis accompagné des deux tauliers habituels. D'abord, l'ordinateur humain Florent Tonuti. Salut Flo.
Salut Raphaël.
Et puis Christophe Cuchely, la machine indestructible. Salut Christophe.
Bonjour Raphaël Cosmidis.
Vous vous êtes bien amusés, messieurs, avec ce jeu. On a bien bossé ce week-end.
C'est vrai qu'on a pas mal bossé, pas mal de stats compilées, pas mal de vidéos vues. D'ailleurs, on en partagera peut-être certaines, qui sait. Mais ouais, c'est toujours un jeu sympathique à faire, de se plonger là-dedans et de découvrir des joueurs qui ont l'air très bons et surtout de faire ensuite des recherches et de se rendre compte que ces joueurs-là sont en fait déjà suivis par toute l'Europe. C'est ce qui est arrivé à pas mal de mecs qu'on a ciblés.
Disons que pour un truc où on n'est pas directement impliqué, on s'est quand même beaucoup investi, quoi. C'est-à-dire, oui. On n'est pas partie prenante dans les transferts et pourtant on a mobilisé pas mal de ressources humaines là-dessus.
Alors, avant de se plonger dans la liste des clubs, on a 6 clubs qu'on va évoquer. Flo, quelle a été ta méthodologie pour identifier les joueurs, puisqu'il y a des clubs qui ont des budgets très différents, des besoins très différents. Comment t'as fonctionné?
Alors, j'ai fonctionné avec Wyscout, puisque j'ai encore quelques accès à la plateforme. J'ai fait de manière assez simple. Généralement, je me suis basé sur soit un joueur existant que le club a et que le club doit ou va remplacer. Et du coup, j'ai pris les stats de ce joueur-là. Je suis allé dans Wyscout. J'ai rentré les critères principaux qui caractérisent le joueur. Et du coup, j'ai regardé ce qui en sortait. Et ensuite, en fonction du prix et des aptitudes des joueurs, ben je décidais d'en sélectionner un ou plusieurs. J'arrivais à chaque fois à finir sur un seul mec. J'ai d'abord débroussaillé avec les stats et ensuite j'ai fait mon choix avec la vidéo en général.
Christophe, toi, comment t'as fonctionné? Bon, je suis sûr que t'as fait appel déjà à tes simples ressources humaines toi-même, puisque tu es une vraie encyclopédie du foot européen.
Bah déjà parce que j'ai pas d'accès Wyscout, donc là-dessus je pouvais pas partir, et puis en plus je me suis dit que ça complétait assez bien, c'est-à-dire que Flo avait une approche beaucoup plus stats, même si évidemment il complétait par de la vidéo. Moi je me suis, alors évidemment j'ai filtré sur le poste que j'estimais le plus faible ou celui où il y avait le plus de besoins, même si pour pas mal de clubs, on verra, c'est aussi pour ça qu'on a choisi certains clubs, il y a des vraies incertitudes, et moi-même, c'est-à-dire tu peux estimer que tu peux recruter à 3-4 postes, donc c'est difficile de prioriser lequel, ou au contraire, tu te demandes est-ce qu'il faut vraiment recruter. Enfin voilà, il y a des vrais dilemmes. Et puis ensuite, c'est, alors à part pour un que j'ai aperçu mais que j'ai pas tant vu que ça, sinon ce sont des joueurs que j'ai assez souvent vus, et donc du coup là, je me suis majoritairement basé sur l'œil, avec évidemment le fait que ça soit plausible, même si t'es jamais 100% sûr que tel club aura les ressources financières et les moyens humains de convaincre un joueur de venir. Je reste quand même sur une espèce de jurisprudence Strootman à l'OM, même si c'était plus le grand Strootman. Il y a des transferts comme ça qui peuvent sembler, on va dire, relativement improbables, ou Ruben Neves qui va à Wolverhampton en Championship à l'époque. Donc j'ai fait des trucs probables, mais je me suis quand même basé sur des joueurs qui avaient un profil analogue et dont mes visionnages me semblaient remplacer des titulaires qui s'en vont dans certains clubs, soit simplement compléter les manques de certaines équipes.
Ouais, de mon côté, j'ai tranché la poire en deux. J'ai fait un peu WhoScored avec les 5 grands championnats. Ensuite, j'ai fait du WhoScored sur les championnats secondaires où généralement les valeurs sont beaucoup moins fortes. Donc le Portugal, la Russie, la Suisse, les Pays-Bas notamment. Et puis après, j'ai fait du Wyscout un peu comme Flo, à visionner notamment une petite fonctionnalité qui est pas mal sur Wyscout, Flo, c'est les meilleures actions.
Ouais.
En fait, une liste compilée des actions qui doivent être considérées comme actions particulièrement de qualité par l'algorithme, et qui montre les buts, les passes dés, les prises d'initiative, pour les défenseurs, notamment les 1 contre 1 gagnés. Donc ça donne pas mal d'options pour découvrir le profil des joueurs et en savoir un peu plus avant de choisir entre certains.
Non, alors c'est pas un algo, hein, c'est choisi à la main.
Ah d'accord, les meilleures actions, c'est choisi à la main. Je pensais que c'était un...
Ouais, je pense. Okay. Je pense que c'est choisi à la main. Et en effet, en fait, c'est un truc qui permet très rapidement de voir en gros les points forts du joueur. Évidemment, quand un joueur, et je parlerai de... C'est l'un de ceux qui fait partie de ma sélection. Quand quelqu'un est très fort, quand dans les meilleures actions, t'as beaucoup de jeux longs qui arrivent à destination, faut pas non plus oublier qu'il y en a quelques-uns qui n'arrivent pas quand même. Donc voilà, faut toujours les relativiser, mais ça permet au moins de vite cerner le profil du mec et voir un petit peu quels sont ses points forts sur un terrain et ce qu'il pourrait du coup apporter à l'équipe.
Alors, rentrons dans le vif du sujet, on a 6 clubs, on aura chacun une suggestion par club, on va voir que certaines vont se recouper, qu'il y a même un joueur qui va apparaître dans plein de clubs différents. On essaiera d'en parler un peu plus longuement pour expliquer pourquoi tel club ou pas un autre. On va commencer par les clubs français. Alors d'abord, on a le Marseille et Rennes en France, on ira ensuite en Espagne avec l'Atlético, on ira voir l'Atalanta en Italie, Dortmund en Allemagne et on finira par Leeds, qui est le club qui vient de monter en Première Ligue, qui était le sujet de notre dernier podcast. L'Olympique de Marseille, Christophe, qui a un besoin, selon en tout cas nous trois, évident, c'est celui au poste d'avant-centre, et on est tous partis sur ce poste-là avec des noms différents. Quel est le tien et pourquoi avant-centre finalement pour l'OM la saison prochaine ?
Alors, avant-centre, mais joueur polyvalent offensivement. Alors pourquoi avant-centre ? Je t'avoue que tu peux notamment réfléchir au côté des latéraux, tu vois. Est-ce que Rokia, par exemple, est une suffisamment bonne doublure au poste de latéral pour que tu partes avec lui et que tu te renforces pas à ce poste-là. Enfin, c'est vrai qu'il y a plusieurs manques. Maintenant, c'est vrai que quand tu vois la liste des joueurs offensifs au niveau de l'OM, même ceux qui peuvent paraître comme des certitudes, ou en tout cas qui auraient pu être des certitudes il y a un an, type Thauvin, tu peux te poser la question, même si je pense que ses problèmes physiques sont derrière lui. Mais c'est-à-dire que, en gros, Benedetto en neuf, c'est pas trop mal. Maintenant, quand tu pars sur une Ligue des Champions avec Benedetto Germain en avant-centre et puis pas une rotation incroyable sur les postes d'ailier, c'est-à-dire que Marley Aké peut vite se retrouver dans la boucle pour être numéro 9. Et bon, sur les ailes, tu peux devoir bricoler si t'as un ou deux blessés. Du coup, je suis parti sur vraiment moi un joueur alors qui peut jouer neuf, mais qui est vraiment extrêmement polyvalent. C'est-à-dire qu'il a déjà joué ailier droit, ailier gauche, même milieu sur... Enfin voilà, c'est défini comme ça par WhoScored, donc j'imagine que c'était des moments où son équipe devait être à 4 milieux, et donc du coup il est défini comme milieu, il a joué aussi en pointe, il a joué aussi numéro 10, enfin bref, joueur extrêmement complet, qui n'est pas une superstar, mais qui pour moi présente un double intérêt, c'est Wu Lei, le chinois de l'Espagnol. Premier intérêt que j'ai quand même fait entrer dans ma réflexion, c'est le fait qu'il est chinois, et sur le plan marketing, c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est un marché non seulement qui est colossal, mais en plus les joueurs chinois à l'étranger sont vraiment pas très nombreux, et l'Espagnol là-dessus a eu de vraies retombées. Marseille, vu la situation du club, je pense que ça peut faire partie des stratégies de recrutement, pas prendre un joueur uniquement parce qu'il est asiatique par exemple et le fait qu'il soit suivi par les médias du pays, mais je pense que ça peut à valeur égale, je pense que ça peut être un critère décisif. Et surtout, c'est un joueur qui fait assez peu de stats, c'est-à-dire il a que 4 buts la saison dernière en Liga, 1 en Europa League.
Depuis qu'il est en Europe, hein, Christophe, parce qu'il faut préciser qu'à Shanghai, avant de venir en Europe, il avait enchaîné des saisons à 14, 20 et 27 buts en championnat.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il était vraiment, on va dire, c'était un gros poisson dans un trop petit bocal en Chine, et quand il arrive en Europe, je le trouve pas mauvais, je trouve que ses statistiques reflètent pas nécessairement son apport, et surtout là, l'Espagnol a vécu une saison de galère, avec une descente, ce qui fait que pour moi, il fait partie des joueurs qui sont atteignables, parce que l'un des premiers critères qu'on regarde, nous, pour voir un peu cette réflexion de quel joueur tu peux cibler, ce sont les joueurs qui descendent à l'étage inférieur, qui a priori peuvent être amenés à bouger assez facilement. Je me dis qu'à 28 ans, joueur qui a l'habitude d'être remplaçant, super sub, qui parfois titulaire, mais qui est pas nécessairement du genre à avoir des exigences. Ça peut être intéressant et surtout je le trouve assez complet en fait. C'est-à-dire il est pas, comme je disais, il n'a pas fait une saison incroyable au niveau des buts, peut-être aussi lié au problème collectif, au manque de confiance. Mais il va assez vite, il prend assez bien la profondeur, il arrive à s'associer avec ses partenaires. Il arrive à jouer bon pied, mauvais pied, puisqu'il a déjà, été sur les deux ailes. En pointe, c'est pas vraiment un pur neuf, c'est plus un neuf qui va prendre la profondeur, mais ça va pas être un joueur de surface type Mitroglou, si on pense aux joueurs qui appartiennent encore à l'Olympique de Marseille. Mais voilà, je pense que dans une rotation, à partir du moment où tu auras besoin de faire tourner avec la Ligue des Champions, c'est le type de profil qui comblera toujours un besoin sans avoir d'attente incroyable pour vraiment exiger une place de titulaire et qui financièrement peut être jouable pour un club comme l'OM.
Oui, là, il est donc l'attaquant chinois de l'Espagnol qui est très polyvalent, qui est arrivé en Europe en 2018, une première belle saison avec l'Espagnol, en tout cas collectivement, parce que l'Espagnol avait atteint la Coupe d'Europe, et puis là, une descente qui peut en effet faire baisser son prix. Le poste d'avant-centre également pour toi, Florent, avec un joueur qu'on connaît peut-être un peu plus, parce que cette année, il continue de flamber dans un championnat un peu plus proche de nous géographiquement, en tout cas nous qui sommes à Paris, moi, et Flo et Paris, Christophe qui est à Lille. C'est un attaquant venu de Suisse.
Ouais, Jean-Pierre Nsamé, attaquant passé en France, puisque qui a eu un parcours quand même un peu tortueux, puisqu'il a démarré, il a été formé à Angers, et puis ensuite il a marqué quelques buts à Angers en Ligue 2, il est parti en National du côté d'Amiens, où il met 7 buts, et puis après il part en D2 Suisse au Servette, où il met 23 buts, saison 2016-2017. Et après, bah, petit à petit, il signe au Young Boys de Berne, et il va faire une saison à 13 buts, une saison à 15 buts, et là la saison qui vient de se terminer, je crois, en Suisse.
Qui est encore en cours, hein, parce que les Young Boys sont à la bagarre avec Saint-Gall pour le titre de champion, et d'ailleurs ils ont pris 5 points d'avance, parce que Saint-Gall avait perdu 5-0 à domicile contre le FC Bâle, dans un match assez improbable. Donc voilà, ils sont toujours en course pour enchaîner un je ne sais combienième titre de champion en Suisse de suite.
Donc Nsamé, 29 buts en 29 matchs cette saison de Super League, auxquels on peut ajouter aussi 3 passes décisives, et 2 buts en Ligue Europa. Alors pourquoi Nsamé ? Ben c'est l'inverse un petit peu de Christophe qui a pris un joueur polyvalent. Moi j'ai pris vraiment un mec de surface, un mec susceptible aussi d'être associé à Germain et Benedetto, puisque c'est vraiment Nsamé un profil très très finisseur, très grand, 1m88. Quand j'ai regardé ses statistiques, il y a notamment le fait de toucher plus de 5 ballons dans la surface par match, un joueur qui est capable de se créer aussi beaucoup de situations de frappe. Je crois qu'il est plus de 0,6 XG par 90. Dans la surface de réparation, c'est un mec, quand on regarde la vidéo, qui semble plutôt à l'aise pour terminer en une touche de balle, donc des centres, soit des reprises de la tête, soit reprises de volée. Et avec les habitudes de l'OM, avec Dimitri Payet et Florian Thauvin sur les côtés en guise de centreur, je pense que c'est quelqu'un qui peut faire des dégâts. Et c'est quelqu'un qui peut aussi peut-être, qui peut parfois s'associer avec ses partenaires, même si c'est pas ce qui ressort principalement des vidéos que l'on voit. Sur certaines séquences, notamment de transition, il est capable de faire des passes plutôt intéressantes en profondeur pour des joueurs lancés. Donc voilà, un profil, en gros, c'était vraiment la réflexion. Je pensais à un 9 de ce profil-là, c'est-à-dire en termes de gabarit. Mais j'avais pensé à Stoigny de Gérone, mais qui va peut-être remonter avec Gérone et qui coûte à mon avis trop cher, parce que je pense que Gérone ne le lâchera pas à moins de la clause libératoire. Et je pense que Marseille claquait 20 millions d'euros sur un joueur de 33 ans, ils ont déjà donné ce genre de truc. Je pensais à Habib Diallo, mais je me dis que c'est peut-être déjà trop cher aujourd'hui s'il doit quitter Metz. Et dans ma tête, peut-être qu'Nsamé, qui est évalué à 4,5 millions d'euros sur Transfermarkt, c'est moins cher parce que ça vient de Suisse. Je me trompe peut-être, hein, ça je sais pas.
Ce qui est difficile avec Transfermarkt, c'est que c'est la valeur actuelle, mais que tu sais très bien que ça sera multiplié par 2 ou 3 minimum au moment de régler la somme. Je prends par exemple l'exemple de plusieurs joueurs qui, comme ça, sont valorisés à 4-5 millions. Alors, par exemple, Bauken à Angers va être valorisé à 4 millions. Et s'il part, tu sais que ce sera 7-8, quoi, quelque chose comme ça.
Ouais, c'est ça. Mais je me dis, par exemple, tu vois, quand en début de Mercato, il y avait cette grosse rumeur Mbaye-Niang, mais qui, j'ai l'impression, était plus agitée par Mbaye-Niang et son entourage que par l'OM, vraiment. Quand tu vois qu'un mec comme Niang peut coûter 20 millions sur le marché, si tu peux choper Nsamé à 8-9, je pense pas qu'il fasse moins bien que Niang à l'OM, et il te coûtera 2 fois moins cher. Après, je sais pas, il a un contrat jusqu'en 2023. A priori, il y avait West Ham qui le suivait cet été. Donc je sais pas vraiment s'il partirait à moins de 10 ou plus de 15, par exemple. Mais voilà, j'ai relevé ce profil-là aussi parce que c'est quelqu'un qui, en termes de duels gagnés, notamment dans les airs, peut aller se battre là où Benedetto et Germain ne le peuvent tout simplement pas parce que physiquement, ils n'en ont pas les capacités. Donc c'est quelqu'un qui peut jouer seul en pointe, qui peut être associé à un des deux attaquants que j'ai cités et qui peut intégrer une rotation de l'OM en apportant quelque chose de différent. Après, voilà, il y a la question du combien coûterait-il. Et surtout, est-il dans les moyens pour l'OM, puisqu'on sait que l'OM a quand même de grosses difficultés financières et on ne sait pas vraiment quelle va être leur surface cet été à dépenser.
Ouais, bah, je suis parti sur un joueur qui a un peu le même gabarit que le tien, c'est Paulinho de Braga, attaquant portugais, né en 92, donc là il va avoir 28 ans en novembre, 1m88, qui est un joueur, je pense, un peu différent de Nsamé parce qu'il est plus dans l'association. Cette année, c'est 17 buts et 7 passes D en championnat portugais, c'est aussi 6 buts en Europa League si tu prends les barrages et les phases de groupe confondues. Sur le site de Transfermarkt, ils mettent comme joueur similaire Jonathan Cagliari, voilà, des profils comme ça, ou Vincent Aboubakar ou Kevin Lasagna, donc il y a un peu de tout et n'importe quoi dans ces comparaisons, mais de ce que j'ai vu, en tout cas des images que j'ai vues, c'est quelqu'un qui est plutôt intéressant de haut but, capable de s'associer, un vrai pied gauche, capable de terminer les actions, d'être assez propre dos au jeu quand il vient décrocher. Il aime bien remiser en une touche et toujours se déplacer ensuite, redemander dans la profondeur. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait bien s'associer avec des joueurs qui aiment bien repiquer vers l'intérieur comme Thauvin ou comme Payet. Et c'est aussi un bon joueur de tête. Il a claqué pas mal de buts de la tête cette saison en championnat portugais avec Braga, qui est d'ailleurs une équipe qui fonctionne bien, qui marche bien, où il y a beaucoup de joueurs qui performent. Donc après, il y a toujours la question de comment adapter les performances du championnat portugais vers le championnat français, qui est un championnat sans doute moins ouvert et qui est peut-être le championnat le moins ouvert d'Europe, en tout cas parmi les gros championnats, entre guillemets. Mais en tout cas, je pense que c'est un profil qui pourrait bien s'adapter, fonctionner et un peu être en fait ce qu'attendait Marseille, je pense, quand ils ont pris Mitroglou. Quelqu'un qui, dos au jeu, peut tenir le ballon, qui peut combiner avec ses partenaires, mais qui peut aussi être présent dans la surface. Alors là, il va avoir 28 ans, c'est peut-être pas la catégorie d'âge que vise l'OM, et on en saura un peu plus quand Longoria prendra vraiment ses fonctions et qui donnera quelques indications sur la route qu'ils vont emprunter. Mais des profils que j'avais identifiés au poste d'attaquant, c'est en tout cas celui qui me semblait le plus intéressant. Alors j'avais identifié d'autres profils aussi, là, avant Flo de te redonner la parole, parce que j'ai l'impression que tu as quelque chose à dire, mais j'avais identifié aussi Oumar Sadik, que tu avais aussi d'ailleurs dans tes profils, Flo, on pourra en dire un petit mot. Qui j'avais d'autres comme attaquants que j'ai regardé un peu, il y en avait quelques-uns, là, je les ai plus en tête. Il y avait Pavlidis, attaquant du championnat, je crois, de RNVN ou je ne sais plus quelle équipe, peut-être Willem aux Pays-Bas, un attaquant grec dont j'ai parlé avec un recruteur, je pourrais en parler juste après. Est-ce que sur Paulinho, tu as un point à évoquer, Flo? Il est valorisé à peu près comme Nsamé, 4,8, et c'est 4,5 pour Nsamé sur le transfert maquette. Donc on peut imaginer un truc entre 10 et 15 millions dans la réalité.
Ouais, après, Paulinho, en fait, quand j'ai vu ses meilleures actions, on était vraiment aux antipodes d'Nsamé, en fait. Nsamé, c'est des actions de finition dans la surface. Paulinho, c'était beaucoup plus des actions de création.
Ouais, on arrive en lancer après, par contre.
Ouais. Après, la question que je me posais, c'est justement par rapport à Payet et Thauvin sur les côtés. Autant il peut s'associer, en effet, en étant en remiseur, etc. Autant il aimait... Enfin, Paulinho, j'ai l'impression d'avoir vu pas mal d'actions où c'est lui qui va lancer des mecs en profondeur. Et je trouve, presque en tant que faux neuf, alors qu'il a vraiment le gabarit de vrai neuf, et je trouve qu'avec Payet et Thauvin, ce serait peut-être un peu gâché, presque, d'avoir un attaquant capable de faire autant de choses par rapport à Nsamé, qui est pur finisseur, qui va attendre que les ballons arrivent. Je ne sais pas si Paulinho serait totalement compatible, en fait, parce que je le trouvais moins finisseur que ce que faisait Nsamé. Par contre... Là, je t'avoue que j'aimais beaucoup le joueur aussi des vidéos que j'ai vues.
Ah non, mais quand j'ai vu les vidéos, je me suis dit, mais c'est vraiment bon. Là, il y a un vrai bon joueur et il m'a fait penser un peu à un mélange dans le style, hein, pas dans le niveau, entre ce que peut faire parfois un Firmino quand il décroche pour s'associer et après partir lancer, et aussi un mec capable de finir dans la surface, pied gauche ou de la tête. Mélange un peu entre Giroud et Firmino, pas de la même valeur et du même niveau. En tout cas, dans le style de jeu, ça m'étonnait de voir un mec aussi complet finalement dans un championnat comme ça qui n'est pas parmi les plus importants, et à Braga surtout, parce que c'est un joueur que j'aurais pu imaginer à Benfica, Porto ou Sporting, vu comme il a l'air complet, et dont j'avais pas vraiment entendu parler d'ailleurs avant cette saison et ce jeu du directeur sportif.
Pour comparer juste avec Nsamé, voir la différence de style qui m'apparaît assez évidente avec deux stats, c'est le ballon touché dans la surface, Paulinho en touche moins qu'Nsamé, genre il est à 3, Nsamé est à 5, et sur les duels aériens, Paulinho en joue deux fois moins. Après, peut-être que Braga joue deux fois plus au sol aussi, hein. c'est pas impossible non plus, mais globalement, il gagne moins de duels aériens, il y a moins de présence physique, mais il y a une créativité qui est bien supérieure.
Paulinho et Nsamé qui sont tous les deux les plus grosses valeurs de leur société d'agents, parce que on peut voir aussi sur Transfermarkt les agents qui représentent les joueurs, et Paulinho fait partie de la société d'agents qui est représentée par Fernando Meira, l'ancien défenseur portugais, dont vous vous souvenez peut-être.
Tout à fait.
Donc, voilà pour Paulinho. Et voilà pour l'OM, trois noms d'attaquants qui peuvent intéresser, pourquoi pas, les supporters marseillais. On passe au Stade Rennais, où on a également identifié le même besoin, le même poste, Christophe. C'est celui de défenseur central, et je vais te laisser commencer, parce qu'après, Flo et moi, on va avoir le même joueur.
Ouais, alors moi, je me suis focalisé sur un joueur qui reste sur une saison moyenne, à la fois collectivement, individuellement, il n'était pas nécessairement tout le temps au niveau, d'ailleurs ça s'est ressenti un petit peu sur son temps de jeu, mais qui reste quelqu'un que tu peux revendre derrière, parce que c'est quand même la logique de beaucoup de clubs, c'est-à-dire que quand tu achètes un joueur, il faut que même si ça ne se passe pas bien, tu puisses le revendre pour t'en sortir, et puis si ça se passe bien, que tu le vendes pour faire une plus-value. C'est Evan Ndika qui est à Francfort, qui visiblement est sur la liste des transferts. J'avoue que je me suis pas, tu vois, j'ai pas fait nécessairement de recherche ou de l'actu, parce que je pense que ça m'aurait aussi embêté de voir que certains joueurs que j'envoyais dans des clubs, que la rumeur était déjà sortie, ça m'aurait rendu triste. Là, visiblement, Ndika n'a pas nécessairement été annoncé proche de Rennes, mais en tout cas, il serait plutôt sur le départ parce qu'il représente une grosse valeur marchande pour son équipe et que forcément, beaucoup d'équipes doivent vendre avec ce qui s'est passé, la pause, tout ça, au niveau des recettes. Alors, Ndika, il y a beaucoup de gens qui le comparent et je vois le truc, alors il est évidemment moins bon, mais qui compare un peu dans le style à Umtiti, c'est-à-dire défenseur central gaucher. Alors, Ndika peut aussi jouer latéral. Qui est bon relanceur, qui est quand même vraiment dans la veine du défenseur central moderne. J'ai même envie de dire défenseur central français moderne, parce que c'est quand même une caractéristique commune à pas mal de jeunes défenseurs centraux qui émergent du côté français. Alors certains, tu peux disserter en fait sur leur vraie qualité technique, enfin vraie qualité défensive, genre un Todibo, est-ce que c'est vraiment un super défenseur ou pas. En tout cas, tous. Tu sens qu'ils ont été formés dans le même moule, volonté de casser des lignes par la passe, etc. Et Ndika, ça se retrouve aussi dans les statistiques avancées, alors les XG chain et XG build up par 90. En gros, voilà, c'est la contribution que tu peux avoir sur la construction générale de l'action. Ces valeurs sont plus élevées que par exemple Hinteregger, qui est un défenseur qui marque beaucoup de buts, qui est le joueur qui a marqué le plus de buts sur corner en Europe, d'assez loin d'ailleurs cette saison, qui est moins relanceur. Ndika lui a des chiffres qui se rapprochent beaucoup plus de ceux d'Umtiti. Voilà, le côté à la fois joueur français qui reviendrait un peu au berceau, sa valeur marchande, je crois que c'est une douzaine de millions d'euros, 10-12. A priori, ça reste jouable pour une équipe rennaise qui ambitionne de se qualifier pour la Ligue des Champions. Ça peut être un vrai pari pour les deux côtés. Lui, alors rejouer une Coupe d'Europe.
C'est les prix qui étaient cités pour Salisu, en tout cas, Christophe.
Oui, c'est ça. Donc, on peut imaginer que c'est la manne financière que Rennes a à mettre à disposition pour un central. Je pense qu'en plus, Salisu, avec la concurrence de Première Ligue, les salaires se sont peut-être un petit peu trop envolés. C'est peut-être là-dessus que ça s'est joué. Alors, Ndika, à mon avis, doit être suivi aussi du côté de la Première Ligue. Maintenant, est-ce que beaucoup d'équipes seraient capables de lui garantir ce que lui attend? Parce qu'il a quand même, joué la Ligue Europa ces deux dernières saisons. Il fait demi-finale la saison dernière avec Francfort face à Chelsea. Donc joueur expérimenté qui n'a que 20 ans et qui, je trouve, coche la plupart des cases, à la fois jeunesse, expérience, français, polyvalence, comme je disais, il peut être à la fois central, axe gauche et latéral gauche. On peut même imaginer qu'il pourrait être central, axe droit, et ça m'apparaît être une vraie plus-value pour Rennes, et un joueur qui, comme je disais, est relativement abordable et qui ne le sera peut-être plus dans 6 mois, 1 an, et qui ne l'était peut-être pas il y a 1 an.
Ouais, alors sur Transfermarkt, à nouveau à nuancer, hein, parce que c'est pas toujours proche de la vérité, mais la valeur marchande est indiquée de 22 millions d'euros. Ce qui, pour le coup, serait sans doute en dehors du budget de Rennes, mais comme Francfort a pas réalisé une grande saison, et lui non plus, dernière date de valorisation, c'est 8 avril 2020. Donc peut-être que depuis, ça a un peu baissé, mais le fait qu'il soit très jeune peut peut-être faire monter les prix. Contrat jusqu'en 2023 pour Ndika à Francfort. Florent, je vais te laisser parler de ton nom, puisque c'est aussi le mien.
Ouais.
J'aurai aussi des choses à rajouter sur lui, parce que j'en ai parlé avec certains recruteurs de Ligue 1 qui connaissent les profils, et qui d'ailleurs connaissent pas mal de profils, disons mineurs, secondaires, en tout cas, qui sont pas forcément connus par le grand public en France. Ce profil-là, c'est un défenseur qui a passé la saison à Heerenveen, mais qui n'appartient pas à Heerenveen.
Ouais, prêté par l'Ajax, et donc prêté à Heerenveen cette année, où il a joué 26 matchs, 2 buts, 4 passes décisives sur la saison. Défenseur assez grand, 1m93, né en 2000, donc ce sera un joueur quand même très jeune dans une équipe rennaise qui est quand même plutôt jeune pour l'instant. Y a une vraie question qui peut se poser sur la nécessité ou pas d'avoir un mec plus solide, plus taulier derrière pour jouer la Coupe d'Europe. Parce que Damien Da Silva, je ne sais pas si ça peut suffire. Il va découvrir au final la Coupe d'Europe la saison prochaine. Enfin, la Ligue des Champions, pardon. Puisqu'il y a eu la Ligue Europa cette saison déjà. Mais du coup, en gros, je me suis focalisé sur les données principales de Salisu que le Stade Rennais suivait. Le nombre de duels joués par match, le nombre de duels gagnés, le pourcentage de duels gagnés aussi, plus de 70%. Et tout en gardant aussi le nombre de passes réussies au-delà des 80%. Et donc, je suis tombé sur le jeune Sven Botman, défenseur donc de Heerenveen, qui sort du lot sur pas mal de choses. Déjà, c'est quand même un mec très grand quand tu le vois sur le terrain, qui en impose pas mal.
Qui n'est pas si lent.
Non, qui n'est pas si lent, en plus. Et qui a une capacité quand même à gagner pas mal de 1 contre 1 dans une équipe qui jouait très haut. Enfin, après, c'est les Eredivisie, donc c'était quand même assez ouvert. Donc, il y avait pas mal de 1 contre 1 à jouer, pas mal de 1 contre 1 du coup, qui ressortent dans ses meilleures actions sur Wisecout. Alors, il y a peut-être un truc sur ces actions-là, peut-être un bémol, c'est que c'est un mec qui se jette pas mal pour gagner ces 1 contre 1-là, récupérer la balle. En gros, il va réduire la distance et ensuite, il va profiter de son envergure, parfois en se jetant pour gagner le ballon. Je me dis qu'en Ligue 1, ça peut coûter quelques cartons rouges si ça se passe mal avec des mecs plus rapides qu'en Eredivisie. Mais il a quand même des stats, plus de 15 ballons récupérés par match, pas mal d'interceptions, 65% de duels gagnés, près de 90% de passes réussies. On est déjà sur un défenseur très complet, avec une certaine qualité aussi dans le jeu long, qu'on distingue dans ses meilleures actions.
Gaucher comme Ndika, d'ailleurs, il faut le préciser, gaucher avec une vraie patte gauche.
Ouais, une vraie patte gauche, du coup capable d'intégrer la défense de Rennes, justement en axial gauche, aux côtés de Da Silva, qui joue généralement axial droit, qui jouait axial droit la saison dernière en général. Et voilà, un profil très complet, a priori pas encore très cher, il est évalué à un peu plus d'un million, je crois, sur Transfermarkt. Évidemment, ce serait beaucoup plus cher en cas de transfert, mais un joueur aussi déjà très suivi, puisque en tapant juste son nom dans Google, on se rend compte par exemple que c'est la priorité du LOSC pour remplacer Gabriel, mais que justement d'autres clubs, dont le Stade Rennais, seraient sur les rangs pour le signer.
Ouais, Christophe Botman qui a annoncé au LOSC. Alors c'est pas forcément l'info qui est sortie de manière très flagrante ces derniers jours concernant le LOSC, parce qu'on part surtout des départs avec Osimhen et Gabriel, mais c'est marrant de voir que finalement les noms qu'on pense parfois trouver, on se dit « Ah, ça y est, j'ai trouvé un joueur intéressant », en fait, ils sont déjà annoncés un peu partout. Est-ce qu'on sait à peu près où ça en est entre le LOSC et Sven Botman, et donc l'Ajax, parce que c'est l'autre partie du deal?
Bah justement, en fait, ça fait tellement longtemps que c'est sorti. Déjà, quand ça sort, côté Lillois, c'est pas nécessairement bon signe, parce que normalement, ça sort quand c'est quasiment fait. Parce que soit Campos va chercher des joueurs totalement improbables, type Celik en D2 turc, même si c'était un international chez les jeunes. A priori, il n'y a pas non plus énormément de monde dessus, surtout quand tu vas travailler le dossier et tout. Donc généralement, quand ça émerge, en fait, c'est que la signature est quasiment faite et que c'est pas trop grave si d'autres clubs tiltent. Là, le souci, c'est que Botman, ça a filtré en début de mois, voire fin de mois dernier. Moi, je crois que j'avais entendu ça fin. Là, on est fin juillet, donc fin mai.
Tombé sur des articles du 25 juin, par exemple.
Fin juin. Je réfléchissais à l'ordre des mois, c'est-à-dire dans quel état je suis en ce dimanche. Donc, c'était fin juin, voilà, et non pas fin mai. Enfin, bref, ça fait longtemps que ça s'est évoqué entre 8 et 9 millions. Et si ça s'est toujours pas fait un mois après, je pense qu'il y a des vrais soucis dans le deal. Alors, je sais pas à quel niveau, il y a tellement d'intermédiaires, tellement de choses au moment de conclure un truc, qui fait que j'ai tendance à penser que ça se fera pas. Alors, c'est vraiment un sentiment très personnel, j'ai pas d'infos là-dessus, mais généralement, c'est pas super bon signe au moment des arrivées, quand un truc filtre aussi longtemps avant, surtout un joueur courtisé par Campos, et qui n'est pas arrivé, et que du coup, d'autres clubs, c'est ce qu'on disait notamment pour Jonathan David avec toi il y a quelques semaines, à savoir que tu peux, quand t'as un autre club, tu peux te dire, tiens, je vais voir ce que fait Campos et je vais lui prendre ses idées. C'est parfois mieux que d'avoir des idées soi-même.
Voilà pour Sven Botman, qui donc pourrait passer du côté de Rennes, Florent, parce qu'apparemment le Stade Rennais a flairé le bon coup et se dit si avec Lille ça foire, bah, peut-être qu'on peut récupérer le gros lot, sachant que Salisu a l'air d'être annoncé à Southampton de manière assez définitive.
Ouais, c'est ça.
Ces derniers jours. Et que l'autre dossier, je crois que c'était Disasi de Reims, et il me semble que c'est un peu retombé, que Monaco était aussi sur le dossier, donc il y a de la concurrence, et ça n'a pas l'air d'avancer de ce côté-là pour Rennes. On passe à un troisième club, c'est l'Atlético, l'Atlético de Madrid, qui a besoin de se renforcer après une saison moyenne, il faut le dire, Christophe. Et là, tu as une proposition, d'ailleurs qu'on va garder pour après, ça va être la dernière proposition pour l'Atlético, parce qu'on va aussi en parler dans d'autres clubs. Je vais d'abord commencer par toi, Flo, avec un attaquant, malgré le secteur offensif assez fourni de l'Atlético, avec Morata, Diego Costa, Correa, João Félix et tout ça, Vitolo, j'en oublie encore. Tu es parti sur un avant-centre.
Ouais, un avant-centre, pour une raison simple, c'est qu'un des gros problèmes de l'Atlético l'année dernière, au-delà des problèmes dans le jeu, des problèmes de créativité, c'était le problème de finition. C'est une équipe qui a vraiment sous-performé, et du coup, je suis parti à la recherche d'un attaquant en prenant des critères très simples, en prenant les critères de Diego Costa il y a 3-4 ans en arrière. Je crois que c'était sa dernière saison à Chelsea. En gros, ce qu'il a fait là-bas, qu'il soit à Chelsea ou à l'Atlético, Diego Costa a toujours fait du Diego Costa, même dans des systèmes différents. Et du coup, je me dis que voilà, essayer de trouver quelqu'un capable de faire la même chose que Diego Costa, mais aujourd'hui avec peut-être un peu plus de qualité, un peu plus de vitesse, de présence physique, et donc et aussi un peu plus de surperformance, ce qui n'a pas été le cas de l'Atlético cette saison, comme je le disais tout à l'heure. Et, du coup, j'ai mis tout ça dans Wisecout, et je suis tombé sur une liste de 5 joueurs que j'ai retenus, qui sont ressortis. Alors ce qui est très drôle, c'est que sur les 5 joueurs, il y a les deux avant-centres de l'Atalanta Bergame, Duvan Zapata et Luis Muriel, qui sont ressortis. Je me suis dit, 29 ans, c'est pas forcément, en plus ils vont être durs à bouger de l'Atalanta, vu la saison qu'elle fait, vu qu'elle jouera encore la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc je suis parti sur autre chose. Il y a Oumar Sadik, dont tu parlais tout à l'heure, qui est aussi ressorti, attaquant de 23 ans du Partizan Belgrade. Il y a Edinson Cavani, libre, qui est ressorti aussi dans ses stats. Mais j'ai retenu le jeune attaquant, je crois, zambien de Salzbourg, Patson Daka, pour pas mal de raisons. Déjà, il a quand même un certain gabarit, il est annoncé à 1m85. Alors, il est moins épais que Diego Costa, mais c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui donne l'impression de faire vraiment beaucoup de mal aux défenses. Et surtout, il a une explosivité que n'a plus forcément Diego Costa. Il a une capacité à faire des différences en solo et à marquer des buts tout seul. Il a aussi une vraie capacité à s'associer avec ses partenaires. Et on peut imaginer, dans l'animation qu'avait mis en place Simeone la saison dernière avec l'Atlético, qu'un mec comme Daka soit capable de jouer très simplement, sollicité dos au jeu, remise sur João Félix ou Marcos Llorente, et ensuite tout de suite une accélération, un départ en profondeur pour être servi et se présenter face au gardien. Ça, c'est quelque chose qu'on le voit répéter plusieurs fois dans ses meilleures actions avec Salzbourg. Et je me dis qu'à l'Atlético, un mec comme ça, à 21 ans, capable d'être très dangereux sur transition par sa vitesse, mais capable aussi de s'associer, de presser, de revenir défendre, je pense qu'il a quand même toute la panoplie pour être un très bon avant-centre de l'Atlético dans le système de Simeone.
Patson Daka, qui apparemment est aussi suivi par le LOSC, parce que je lisais un article là en même temps que Florent, tu décrivais le profil, et le LOSC serait prêt à mettre 30 millions sur Patson Daka. Je ne sais pas si tu as vu passer l'info, Christophe.
J'en ai pas entendu parler, mais ça m'étonne qu'à moitié. Après, je pense que ça serait peut-être plus un recours si jamais Jonathan David ne se faisait pas, même si c'est pas exactement le même profil. Mais disons, l'idée générale du LOSC, c'est de recruter 3 attaquants pour pouvoir éventuellement jouer en 4-4-2. Au moins 2 sur un joueur de surface expérimenté. Là, c'est Burak Yılmaz qui est quasiment arrivé, et Jonathan David, 9, mais pouvoir beaucoup plus complet, 9,5, enfin voilà, avec la possibilité, pourquoi pas, d'avoir Timothy Weah, troisième attaquant, si jamais aucun autre n'arrive. Mais disons, à la fois recruter Yılmaz, Jonathan David, je pense pas que t'auras les sous et l'envie de prendre un troisième attaquant comme Patson Daka, mais effectivement que tu restes un petit peu à l'écoute, ça me paraît logique, mais je pense pas que ce soit une priorité.
Après, tu peux également récupérer Loïc Rémy.
Oui, mais non. Là, j'étais à la conférence de presse il y a 2 jours et j'ai demandé à Galtier. Belle conférence de presse où nous étions 2, donc du coup, j'ai l'impression que c'était un peu un tête-à-tête. Et donc non, Galtier m'a dit, enfin, il est parti, il reviendra pas. En gros, tu tournes la page, mais en plus, même s'il dément la façon dont ça a été fait, le LOSC a pas trop aimé, vu qu'il les a un peu mis en stand-by en disant oui, et puis en fait, il s'est barré. Et puis le salaire qui... En gros, Lille lui a fait une proposition de salaire, il a accepté un salaire, je crois, 35% supérieur pour aller à Benevento. Finalement, revenir à Lille en disant « Bon, alors, vous pouvez me reproposer le salaire de la dernière fois. » Ça ne passera pas. Donc, Loïc Rémy, c'est terminé.
Terrible pour lui, quand même, hein, parce que là, le coup, il était tout proche. Enfin, il était désiré par 2 clubs, et puis maintenant, il n'a plus personne. Donc, c'est assez
et puis, cruel. Pour un problème cardiaque qu'il a depuis qu'il a 15 ou 16 ans, hein, c'est juste que certains clubs veulent prendre le risque et d'autres ne veulent pas. À Lille, ils ont fait venir 4-5 spécialistes qui ont dit « Si, il peut jouer, pas de souci. » Et à Benevento, l'avis médical était différent, mais comme je crois à Liverpool, il avait été aussi refusé il y a quelques années. Enfin voilà, c'est assez nébuleux ce qui se passe autour de sa condition physique.
Ouais, j'ai l'impression que tous les 2 ans, il revit le même drame. Voilà pour les joueurs concernant. J'étais sur l'Atlético pour Patson Daka, pardon. Avant qu'on passe aux joueurs de Christophe, je vais donner le mien, qui est à un autre poste. Flo est parti devant, moi je suis parti derrière. Poste de défenseur central qui finalement s'imposait assez logiquement. Je suis parti au départ pour faire des recherches assez complexes sur des stades, visionner des profils. Puis je me suis dit, pourquoi me casser la tête? Je vais regarder en Liga un joueur qui peut s'insérer dans ce projet-là. Et je crois d'ailleurs que c'était une autre de tes idées, Flo.
Oui, absolument.
C'est Diego Carlos, le défenseur brésilien du FC Séville, ancien de Nantes, qui a réalisé une très belle saison en Espagne, peut-être un des meilleurs défenseurs centraux cette saison en Liga, Christophe ?
Oui, oui, il est dans les 5 en tout cas, largement. Il peut même être dans les équipes types de l'année sans qu'il y ait scandale. Ouais, ouais, très, très bonne saison, même assez surprenante compte tenu de la progression. C'est aussi pour ça que moi je ne l'ai pas mis, parce que je ne sais pas s'il a encore une vitesse supérieure pour sa progression, mais déjà là sur son niveau, il a tout à fait sa place dans une rotation à l'Atlético.
Ouais, alors c'est pas forcément le meilleur relanceur et le meilleur balle au pied, mais dans le projet de l'Atlético de Simeone, c'est pas forcément ce qui est demandé. Physiquement, c'est quand même quelqu'un qui domine la plupart des adversaires, qui est assez complet sur le plan athlétique, qui se met assez bien dans la sobriété. D'ailleurs, il a appris à le faire en Ligue 1, donc je pense que ça peut coller au projet athlétiquesque ou des postes de défenseur central. Cette saison, il y avait Jiménez, il y avait Savic, il y avait Felipe aussi, il y avait Hermoso, je crois.
C'est ça, ouais.
C'était à peu près les quatre qui étaient dans le projet. On dit que Diego Carlos, quand même, ça peut être une mise à jour, un profil un peu supérieur à ce que peut faire des Savic et les autres. Sachant que Jiménez est aussi annoncé peut-être sur le départ, en tout cas, c'est une cible de Chelsea. Donc, que ce soit pour l'associer à Jiménez ou pour l'associer à un autre, je pense que ça peut être intéressant. Est-ce que Flo, puisque tu y as pensé, est-ce que c'est un projet qui te paraît viable ou ça t'as hésité finalement après réflexion ?
Non, en fait, si j'étais parti sur un défenseur central, j'aurais retenu Diego Carlos. Et c'est vrai que, en fait, quand tu regardes les stats des défenseurs centraux à l'Atlético cette saison, tu te rends compte que Simeone a cherché la bonne paire quasiment toute la saison, peut-être. Parce qu'ils sont tous à une vingtaine de matchs entre eux. Mais il y a aucun mec qui s'est dégagé comme étant le taulier successeur de Godin, etc. Jiménez s'est pas affirmé comme un patron, comme un numéro 1 dans une défense. Or, Diego Carlos, à Séville, t'as l'impression qu'il est arrivé dans la défense, il s'est installé et c'était lui le patron, quoi, tout de suite. Et tu te dis qu'il serait capable sans doute de faire la même chose s'il arrivait à l'Atlético, parce que je me dis que c'est peut-être quelque chose aujourd'hui qui manque à l'Atlético, c'est-à-dire au-delà de quatre bons défenseurs, d'avoir un vrai taulier qui sort du lot et qui soit le premier élément de la colonne vertébrale à reconstruire, quoi.
Séville, troisième meilleure défense de Liga avec 34 buts encaissés en 38 matchs. Donc c'est pas mal du tout. Et Jiménez qui a toujours le problème quand même de se blesser.
Oui.
Cette année, c'est 19 matchs en championnat. Enfin, 21 avec les matchs où il est entré en jeu. Mais j'ai l'impression que tous les ans, c'est un peu pareil. Voilà, 19 matchs cette saison titulaire. L'an dernier, c'était 19 aussi. L'année d'avant, c'était 17. L'année d'encore avant, il n'était pas forcément titulaire, c'était 12. Voilà, je n'ai pas l'impression qu'il ait fait une saison complète depuis qu'il est arrivé à l'Atlético. Alors, il y a eu des grands matchs en Ligue des Champions, des grands matchs avec la sélection uruguayenne, mais il n'a jamais fait 35 matchs de haut niveau sur la même saison. Et ça, c'est la réserve qui existe encore sur lui. Christophe, soit tu rajoutes quelque chose sur Jiménez, soit tu peux partir sur ton joueur, soit tu peux faire les deux. Vraiment, on te fait confiance.
Bah, je vais d'abord partir sur l'Atlético de manière générale. Le joueur, je vais en parler un petit peu, mais je vous laisserai développer parce que vous l'avez aussi mis dans d'autres équipes, donc je vais pas tout dévoyer. En fait, l'une des raisons qui, je pense, est intéressante, qui ont poussé à ce qu'on choisisse l'Atlético, c'est qu'en fait, c'est très difficile de savoir comment améliorer cette équipe, mais qu'elle a besoin d'amélioration. Alors, pour rigoler, je vous disais, faut remplacer Simeone par Pascal Gastien. Bon, c'est évidemment une partie vanne, mais c'est vrai que tu peux te demander est-ce que le plafond, c'est pas l'entraîneur? Alors, façon de parler, c'est-à-dire que si tu changes, t'as un gros risque de chuter. Là, avec Simeone, t'es sûr qu'il n'y aura pas de saison totalement ratée. Mais c'est vrai qu'en fait, tu vois l'effectif, tu dis, bon, il termine à chaque fois une quinzaine, vingtaine de points de Barcelone, voire de Barcelone et Madrid depuis quelques saisons, donc il faudrait s'améliorer. Mais là, tu vois, je vais te citer simplement la formation avec les joueurs les plus utilisés en championnat. Oblak dans les buts, difficile de faire mieux. Latéraux, Lodi et Trippier. Alors, je pense qu'il peut y avoir mieux que Trippier. Maintenant, dans un projet de jeu où t'as minimum un bon joueur de la tête, un joueur de surface, avec soit Diego Costa, soit Morata, soit juste Morata, soit juste Diego Costa. Alors Morata, moins bon de la tête, je pense, qu'il n'en donne l'impression. N'empêche que d'avoir un joueur comme Trippier, qui en plus n'est là que depuis une année, et qui est très bon tireur de coups de pied arrêtés, bah, tu peux faire mieux, mais n'empêche que dans le projet, c'est assez viable. Vous avez cité tous les défenseurs centraux, alors on peut imaginer que tu pourrais prendre un mec qui jouait le rôle de Godin, qui serait le super taulier, accompagné d'autres. Maintenant, même sur les générations, tu vois, Jiménez à 25 ans, Hermoso à 25 ans, alors Felipe en a 31, mais mais il y a pas Savage 29, tu vois, il y a pas que des vieux, et si tu prends un Diego Carlos, il va rentrer un petit peu sur la même génération, donc il faudrait vraiment avoir un gros upgrade. Je suis pas sûr que ça puisse se trouver avec le budget de l'Atlético. L'autre latéral, Renan Lodi, 22 ans et des vraies bonnes performances notamment en Ligue des Champions. Donc je pense que là-dessus tu dois construire sur lui en espérant qu'il continue à progresser, mais ne pas lui mettre quelqu'un dans les pattes. Au milieu de terrain, Correa côté droit, Koke côté gauche, Thomas Partey et Saúl Ñíguez au milieu. Là, pareil, t'as pas de superstar, mais Koke, Saúl, c'est quand même très solide. Partey, vraie émergence depuis une saison et demie. Angel Correa, et c'est pour ça que j'ai choisi un milieu plutôt droit, vraie incertitude, surtout que c'est un profil très explosif, mais qui joue ailier, mais qui peut aussi jouer neuf. En gros, c'est un attaquant assez complet qui va mettre du dynamisme, mais c'est pas le pur ailier. Enfin, voilà, t'as l'impression qu'en gros, c'est un attaquant rapide qui, puisqu'il n'y a pas trop d'espace quand tu joues devant, tu vas mettre un cran plus bas, mais je suis convaincu qu'à moitié en tant que titulaire, et devant José Félix Morata. Enfin bref, t'as pas d'énormes soucis, et je vais pas m'amuser à lister tous les remplaçants, mais même si tu regardes, les postes sont globalement doublés. T'as du Arias, du Versalco sur les postes de latéraux, ce qui est quand même pas dégueu. T'as Marcos Llorente qui n'est pas dans ce 11 parce qu'il a émergé tardivement, mais qui devient une solution incontournable. T'as Carrasco qui était revenu en prêt.
Le ballon d'or 2020 moral, Christophe.
Absolument, le ballon d'or moral Llorente. Enfin voilà, Diego Costa. T'as vraiment beaucoup beaucoup de monde. Alors à part Sapongi qui est pas très bon, sinon la plupart des joueurs peuvent entrer dans la rotation. Et en fait, il me semble que même si ça n'a pas toujours marché, l'idée ça serait plutôt que de chercher un neuf, même si effectivement j'y ai réfléchi aussi, d'ajouter de la créativité. Parce que là, souvent, les ailiers, alors même si t'as Llorente qui en a, c'est soit du faux ailier à la Saúl ou à la Koke, qui sont plus des milieux axiaux que tu mets sur le côté pour conserver une forme de maîtrise, soit vraiment des joueurs de percussion absolue comme Correa ou Carrasco, mais pas de vrais meneurs de jeu excentrés à la Pablo Hernandez, par exemple, dont on a parlé la semaine dernière à Leeds. Et c'est pour ça que j'ai choisi bien Emiliano Buendia, notre ami de Norwich qui descend de Norwich et joueur, je pense, le meilleur de l'équipe d'assez loin avec Cantwell à seulement 23 ans, sera sur le départ. Cinquième joueur qui a fait le plus de passes clés en première ligue cette saison, alors que donc il n'était pas dans une équipe qui avait, bon, même si c'était une équipe qui essayait d'envoyer du jeu, c'était pas non plus la meilleure, donc du coup ses statistiques sont quand même assez intéressantes. Je me dis que si lui, qui est plutôt milieu droit, tu l'installes sur un poste de milieu droit, il peut au moins te poser des soucis et t'apporter cette créativité. Dans l'absolu, tu pourrais même le mettre dans le double pivot si t'avais un peu de panache. Je suis pas sûr que ce soit le cas, mais voilà. Ça peut créer des dynamiques pas mal, je pense, avec un joueur comme Llorente, si vraiment tu construis là-dessus, qui pourrait te permettre de marquer des buts, même avec des attaquants qui ne progresseraient pas sur leur niveau intrinsèque. Je pense que Morata ne progressera plus. Il a déjà 27 ans. Et en fait, son augmentation du total de buts sera faite s'il a plus de munitions. Et que là, les joueurs actuels, à part Llorente, t'arrives un peu au plafond de ce que tu sais qu'ils vont pouvoir t'apporter. Et que donc, du coup, te rajouter un joueur créatif peut être une vraie option, même si effectivement, on dira qu'il y a beaucoup de milieux. C'est plus côté gauche, mais un Lemar est un peu en échec, un Vitolo joue des bouts de match. Mais côté droit, ça me paraîtrait une recrue intéressante. Et surtout, Buendia n'a rien à faire en championship, donc il faut lui trouver une porte de sortie.
Bon, on reste sur Buendia, Flo, parce que tu as une autre porte de sortie pour Emiliano Buendia, l'Argentin de Norwich, et j'en ai encore une autre, mais je te laisse commencer. Où est-ce que tu envoies le milieu argentin, Flo?
Ouais, moi je l'ai envoyé à l'Atalanta Bergame. Alors avec quelques bémols, quelques questions. À la base, j'étais parti sur la recherche d'un numéro 3 pour tourner avec Gomez et Ilicic, qui commencent à faire leurs âges quand même. Et je crois que c'est 34-35 pour Gomez et 33 pour Ilicic, il me semble.
Je dirais 34-32, mais c'est globalement l'idée générale.
Ouais. Et le truc, c'est que j'ai essayé de faire un peu, de combiner les stats des deux, de faire des moyennes sur toutes leurs statistiques pour essayer de trouver la perle rare. Et malheureusement, il y avait tout simplement personne, à part peut-être Lionel Messi qui apparaissait. Donc ça montre quand même juste pour...
Après, tu dis que des joueurs qui ont des moins bonnes stats dans le contexte de l'Atalanta, par contre, oui, pourraient exploser. Après, le numéro 3, il est en théorie déjà là, parce que Malinowski est énorme depuis qu'il joue. Donc,
C'est vrai qu'ils ont déjà Malinowski, mais du coup, j'ai pensé à Buendia, alors qu'il y a un profil moins... ça porte moins la balle, ça fixe moins que Gomez et Ilicic. C'est là qu'il y a peut-être le bémol. Par contre, je l'imagine tout à fait... parfaitement s'associer en fait avec avec ses coéquipiers, avec le latéral, avec avec les avant-centres, avec les milieux qui se projetteraient. Je pense que c'est un mec qui est capable vraiment de donner les ballons dans le bon rythme, dans le bon tempo pour ce genre de joueur, donc participer à des jeux à 3 voire des jeux à 4 comme même le faire l'Atalanta. Je pense qu'il pourrait tout à fait, il faudrait qu'il gagne un petit peu en je pense en capacité d'élimination, capacité à faire des différences en un contre un pour vraiment rentrer dans ce moule là de Gomez et Ilicic, mais voilà, je l'ai envoyé à l'Atalanta parce que je l'imagine bien s'intégrer, bien rentrer dans cette équipe où les deux meneurs de jeu ont des capacités individuelles, mais surtout la capacité à faire jouer les autres dans le bon tempo et à animer le jeu dans les 30 derniers mètres.
Et pour moi, de mon côté, Buendia, je l'ai envoyé du côté de Leeds, parce que c'est un joueur qui me paraît aussi intéressant dans les milieux de Bielsa, alors que ce soit un milieu avec deux joueurs dans un double pivot et un 10, ou un milieu à 3 avec une pointe basse. Je pense qu'il pourrait jouer que ce soit numéro 10 ou milieu le plus avancé dans double pivot ou milieu relayeur dans un milieu à 3. À la fois, il connaît le championnat, je pense qu'il plairait énormément à Bielsa. En plus, ils parlent la même langue, donc là-dessus, il n'y aurait pas du tout de barrière, et je pense qu'il pourrait encore mieux comprendre les consignes de Bielsa que les anglophones du groupe. C'est un profil qui est capable de presser, capable de beaucoup courir, d'être très mobile, techniquement très propre. Il pourrait prendre un peu le relais créatif de Pablo Hernandez qui vieillit, et à voir comment il va s'adapter à ce retour en Première Ligue, parce qu'il a déjà connu ce championnat. Alors, c'est pas non plus passer un énorme palier, faire Norwich qui descend et passer à Leeds qui monte, mais dans une équipe qui va peut-être fonctionner comme Leeds et qui va pouvoir s'adapter très vite et dominer, je pense, pas mal d'équipes, la créativité de Buendia, elle pourrait être intéressante, je pense. C'est un joueur qui peut un peu jouer partout, en fait, Flo. C'est ça qui est compliqué, parce que il a un peu tous les éléments du joueur moderne. Il peut jouer en 6-8 parce qu'il réalise très bien la pression, il a une bonne patte. Il peut jouer plus haut parce qu'il est mobile, il est capable de presser. En fait, c'est difficile de trouver un club où il ferait pas du bien, pardon.
Ouais, il peut s'intégrer partout. Manque peut-être, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est la capacité à tenir un peu la balle individuellement. J'ai l'impression qu'il est très fort, enfin tenir, être plus dans la percussion en fait. Tu vois, tu parlais de sa capacité à résister à la pression.
Ouais, il est très vertical.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc il y a cette question là. Après, oui, à 23 ans et après cette saison à Norwich, t'as vraiment l'impression que dans tous les projets un peu protagonistes, tu pourrais avoir un joueur très très intéressant qui pourrait franchir un palier en faisant plus de stats dans une équipe tout simplement meilleure.
Alors, deux petites infos là, parce que il y en a beaucoup qui tombent et en même temps j'en retrouve des anciennes. Je suis tombé sur un article d'avril qui disait que Claude Puel voulait faire venir Paulinho de Braga à Saint-Etienne. Donc ça montre qu'on n'est pas non plus nulle part en termes d'identification des joueurs. Et puis il y a quand même quelques infos qui tombent sur le LOSC en ce moment là, Christophe, parce qu'à la fois, donc Jonathan David, ça serait tombé à l'eau, mais ça pourrait aller à Leeds. Et de l'autre côté, Lille aurait jeté son dévolu sur Morelos, la pépite de Steven Gerrard chez les Rangers.
Morelos, qui je crois a un caractère assez affirmé. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on en parle, le mec est dans une bagarre générale, il jette son maillot, il s'énerve sur des gens. Enfin,
c'est un peu le Mundir du football écossais.
Ouais, le Mundir sans les chèvres. Après, il y a une capacité à marquer des buts, ce qui est quand même pas démenti. Mais au niveau agressivité, c'est quand même particulier. J'avoue que là, ça tombe maintenant. J'irai à la rédaction ce soir, donc j'aurai plus d'infos, mais les auditeurs du podcast en Europa, du coup, j'ai pas grand chose à apporter. Par contre, ce qui est vrai, c'est que Jonathan David à Leeds, ça pourrait être très intéressant.
Oui.
Pour le coup, à la place de Mumford, ça serait pas nécessairement gênant d'avoir un neuf fuyant dans ce profil de jeu là. Avec en plus, je pense, une capacité à répéter les efforts et à s'associer qui serait largement à la hauteur. Et c'est vrai que par contre, Lille met la pression à Jonathan David, à son agent, etc. On poussait David à gueuler un peu dans la presse pour demander son départ. Et je peux comprendre le côté la gantoise qui, pour faire chier Lille, va essayer de mettre des clubs en concurrence. Je sais pas si l'intérêt de Leeds est réel, mais effectivement, il y a peut-être une fenêtre dans laquelle s'engouffrer pour pouvoir le rapatrier maintenant. Morelos, je suis assez sceptique sur le fait d'avoir une attaque Morelos-Burak Yılmaz la saison prochaine. Mais bon, écoute, pourquoi pas, ça reste un joueur qui est assez jeune et qui pour le coup a des vraies stats de but ces dernières saisons.
Par contre, Morelos-Burak Yılmaz, sur le côté combattant singulier ou quel duo d'attaque tu choisis pour partir en guerre, t'es bien placé.
Ouais. Et Morelos qui était aussi dans ma shortlist pour l'OM. Ouais. Sur la recherche d'attaquants, c'est un mec aussi qui ressortait plutôt bien, mais que j'ai que j'ai passé parce que c'était un profil déjà un peu connu et je sais pas s'il pouvait intéresser l'OM, pardon.
Ça doit être un peu cher pour l'OM, je pense, parce que si Lille y va, ça doit être entre 20 et 30. Et je suis pas sûr que l'OM ait entre 20 et 30 à claquer cet été. À part si, évidemment, ils sont rachetés par des fonds saoudiens. Leeds, repartons sur Leeds, puisqu'on a beaucoup évoqué ce club. J'ai déjà parlé de Buendia. Je vais repartir avec toi, Florent, et tu vas nous parler d'un milieu également, mais un peu plus avancé, qui joue également en Angleterre. Bon, c'est assez facile à deviner, vas-y.
Ouais, c'est assez facile à deviner avec la saison qu'il a faite et surtout la période post-confinement où il a été assez impressionnant. C'est Saïd Benrahma de Brentford, alors qu'il joue la montée. Là, ce week-end et en milieu de semaine, je crois que c'est Brentford face à Swansea, la première demi-finale des playoffs. Mais en gros, j'ai cherché un joueur, un peu comme toi, j'ai pensé à la succession de Pablo, mais j'ai aussi cherché un joueur qui serait capable d'être sur le terrain avec Pablo aussi. Et du coup, le profil de Benrahma m'a intéressé par sa capacité à faire les deux. C'est-à-dire que dans un premier temps, je l'imagine tout à fait capable d'apporter ce qu'il est capable de faire individuellement, ce qu'il a fait cette saison avec Brentford et qui lui a permis quand même de mettre 17 buts et 9 passes décisives. Et parfois des buts compliqués, c'est quelqu'un qui a mis bien plus que ses XG cette saison dans mon souvenir. Et donc ce serait, je pense, une addition beaucoup plus intéressante que Jack Harrison ou Elder Costa sur les côtés. Ce serait quelqu'un qui serait capable de faire beaucoup plus de différence et de stats que ces deux-là. Donc il y aurait déjà un upgrade et j'imagine une évolution à moyen terme, on va dire, sous la direction de Bielsa, d'un mec capable de prendre de plus en plus d'envergure dans le jeu, dans l'animation, pour devenir ensuite le numéro 10, successeur de Pablo dans cette équipe, et du coup s'installer sur la durée avec Leeds. Voilà ce que j'imagine pour Benrahma, c'est-à-dire un apport immédiat en stats, en capacité d'élimination, un joueur capable de faire des différences et de débloquer des situations là où le collectif de Leeds butera peut-être en première ligue, et dans un deuxième temps, être le mec qui remplacera Pablo et qui portera le jeu de l'équipe et qui en sera véritablement le meneur.
Merci Flo pour ce petit point sur Saïd Benrahma. Il y a eu un article de Maxime Brigand, je crois, récemment sur lui, sur SoFoot. Si vous voulez aller découvrir un peu plus l'ancien de Nice, je crois, vous pouvez aller lire ça. Christophe, t'es parti finalement comme sur Jonathan David, sur un attaquant. Mais t'as été quand même un peu moins ambitieux que ce qu'annonce cette dernière rumeur.
Ouais, alors en fait, c'est assez bizarre, c'est-à-dire que je suis pas tellement ambitieux, parce que je vais partir sur un joueur de 32 et 33 ans dans quelques semaines, qui n'est pas un nom incroyable, mais en même temps, c'est l'un des meilleurs buteurs d'Europe, c'est Francesco Caputo. Alors c'est vraiment le pari du court terme, après... C'est, je vais pas dire que là je sais dans la tête, mais bon, rien ne dit qu'il va décliner à 32 ans et demi, à 33 ans, enfin il est déjà 32 ans et demi, mais voilà, qu'il va décliner et qu'à 34, 35 ans il sera mort, parce que c'est un peu un late bloomer, quoi. Il arrive assez tard sur la première division. Là, ces trois dernières saisons, donc à Empoli en série B il y a 2 ans, il avait mis 26 buts, donc il y a un peu plus de matchs, hein, il a joué 41 matchs en série B. La saison dernière il en a mis 16 en 38 matchs et là il est à 19 buts en 34 matchs cette saison avec Sassuolo. Alors déjà 19 buts, c'est assez intéressant, mais il n'a mis que 2 pénaltys. Et en fait, si tu rapportes ça, ça fait 17 buts dans le jeu. 17 buts dans le jeu, c'est autant que Lukaku, c'est un de moins que Cristiano Ronaldo, c'est 2 de moins que Ciro Immobile. Donc c'est-à-dire que vraiment, s'il avait les mêmes boosts de stats sur les pénaltys, alors pas sûr qu'il les aurait tous mis, mais voilà, tu pourrais l'imaginer proche des 30 buts. Donc c'est un joueur... Alors déjà, en fait, il y a deux choses. Il y a un, donc ce côté buteur qui est quand même très intéressant, et mine de rien, quelqu'un qui va, j'imagine, terminer à 20 buts. Je pense qu'il va quand même marquer un but sur les 3 matchs restants. Enfin, 2 matchs pour Sassuolo, sachant qu'il en a mis un hier, veille d'enregistrement, l'un des 4 buts refusés à la vidéo à Sassuolo. Mais un, parce que donc il marque pas mal, ce qui est quand même assez intéressant. Et surtout parce que Sassuolo est une équipe qui, à sa façon, joue un peu comme Leeds. Alors, peut-être moins d'intensité, mais il y a quand même cette volonté de toujours relancer au sol, peut-être même encore plus que Leeds. Je pense que Sassuolo est l'équipe qui prépare les plans de relance courte les plus poussés avec De Zerbi qui existent en Europe, avec des variantes très poussées. D'ailleurs, The Athletic avait fait un article là-dessus il y a de ça quelques semaines. Donc il va pas être dépaysé là-dessus. Et puis pour un neuf buteur, c'est presque le maximum de ce que tu peux avoir. Question, je joue avec mes partenaires, parce que Berardi, qui joue côté par exemple, a aussi un profil un peu de numéro 9. Boga peu un profil de soliste. Les trois sont à plus de 10 buts cette saison et dans les 15 meilleurs buteurs de Serie A. Donc voilà, pour moi, il coche à la fois la case de buteur en étant meilleur que Bamford, sachant qu'il est à peu près dans ses XG, hein, parce que cette année, il est à 19 buts pour 13 XG et l'an dernier, il est à 16 buts pour 18. Donc, légère sous-performance la saison dernière et nette sur-performance cette saison-là. Donc, tu peux imaginer que globalement, il est peut-être dans la moyenne, voire légèrement au-dessus de la moyenne, question finition. Donc, si tu le mets dans un projet de jeu relativement analogue, avec aussi la capacité, comme je disais, à beaucoup s'associer, à faire jouer avec ses partenaires et à pas être un œuf de surface, mais quelqu'un qui arrive lancé dans la surface pour de bonnes raisons plutôt qu'il plante sa tente, sur un ou deux ans, ça peut faire un bon pari. Alors c'est pas le même profil, mais disons ni le même âge, etc. Mais ça peut faire un truc dans mon idée un peu comme Michu qui va à Swansea, quoi. C'est-à-dire ouais. Quelqu'un qui débarque un peu sur la scène européenne, tu sais pas combien de temps ça peut durer, mais sur une ou deux saisons, j'imagine un truc assez sympa du joueur qui est à la fois un peu frisson, même si c'est pas le mec le plus technique au monde, mais qui surtout va marquer des buts intéressants.
Merci Christophe pour ce point sur Francisco Caputo, qui en effet joue dans une équipe également protagoniste. On va partir avec l'Atalanta, maintenant qu'on a fait Marseille, Rennes, l'Atletico et Leeds. L'Atalanta qui est une équipe où c'est difficile de trouver des joueurs vraiment idéaux, parce que c'est un projet de jeu très particulier, à la fois un peu génial et unique, Florent. Qu'est-ce que tu as... Alors toi, tu avais choisi Buendia, donc je ne te redemande pas. Est-ce que tu avais d'autres possibilités?
Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, sur la difficulté de trouver des joueurs pour l'Atalanta, déjà, il faut trouver qui cibler, parce que tu peux partir sur le latéral en imaginant que Castagne quitte le club cet été, mais c'est pas non plus certain, mais c'est un de ceux dont... qui n'a plus qu'une année de contrat une fois qu'on aura terminé cette saison. T'as Martin De Roon aussi qui peut être un mec qui va partir. D'ailleurs, j'avais d'abord étudié son cas, enfin en tout cas le cas de sa succession, et j'avais retenu un profil que j'ai finalement envoyé à Dortmund, donc j'en parlerai après. Mais c'est vrai que pour l'Atalanta, j'avais retenu un joueur, un latéral néerlandais qui s'appelle Glenn Bijel, qui joue au FC Emmen. Et qui avait dans ses meilleures actions pas mal de situations où il terminait les séquences au deuxième poteau, si vous voyez ce que je veux dire, par rapport à ce que font Gossens et Castagne ou Attebor habituellement avec l'Atalanta. Donc il y avait une petite filiation à ce niveau-là, donc à suivre. Mais je vais vous laisser avec vos propositions, vu que moi, ouais, j'avais envoyé Buendia là-bas.
En tout cas, on est tous partis sur les mêmes postes à peu près. C'est les postes des deux milieux axiaux qui jouent derrière Ilicic et Gomez, ou derrière Pazalic et Malinowski. Christophe, toi, t'es parti sur un joueur qu'on a vu tous les trois récemment. Un joueur qui a permis à l'Udinese de battre la Juve. Et un joueur qui, je crois, est français même d'ailleurs.
Il est né en France. Je crois qu'il a la nationalité ivoirienne. Seko Fofana. Alors, j'ai hésité entre deux joueurs de l'Udinese. Toujours un peu la même logique, à savoir... La plupart de mes transferts, c'est un peu des upgrades pour les joueurs, pour rendre ça crédible. Et l'Udinese ne va pas descendre, contrairement à certaines des équipes auxquelles appartenaient des joueurs que j'ai mentionnés un petit peu plus tôt. Mais c'est la galère quasiment chaque saison pour l'Udinese qui va se maintenir un peu difficilement. En fait, j'hésitais entre lui et Rodrigo De Paul selon en fait le profil que je ciblais. C'est-à-dire qu'est-ce que... L'idée, c'est de remplacer en gros Freuler. Alors, ça peut être De Roon, mais plutôt Freuler, parce que De Roon va être amené à reculer en défense centrale, alors que Freuler est quand même plutôt un relayeur, entre guillemets, de base. En plus, je trouve un peu moins bon. Malgré tout, je trouve plus joueur qui profite du collectif que quelqu'un qui serait capable de faire des bonnes choses, en tout cas des choses de ce niveau-là, dans un autre club. Et donc, c'était soit ça, soit carrément, je pars sur un profil qui pourrait plutôt être dans le registre de Malinowski, voire Pasalic, à savoir capable de jouer un cran plus haut. Là, ça aurait été Rodrigo De Paul. Finalement, je suis parti sur Seko Fofana parce que alors il a l'avantage pour moi, à chaque fois que je le vois jouer, il est très bon. C'est-à-dire que j'ai pas vu non plus tous les matchs de l'Udinese, mais à chaque fois que je le vois, il y a un côté assez fin techniquement malgré tout, et surtout je fais beaucoup d'aller-retour et je suis capable de casser les lignes balle au pied. Alors on l'a vu de manière assez éclatante sur le but qui marque en toute fin de match pour battre la Juventus et la priver définitivement du titre sur cette journée-là. Mais il a d'autres buts comme ça, c'est intéressant. Je crois que c'est face au Genoa, il me semble, où il traverse aussi une partie du terrain. Enfin, j'ai souvenir de plusieurs actions où vraiment tu le sens, alors pas nécessairement physiquement, mais en gros, de manière assez décidée, il prend la balle, il a une bonne conduite en mouvement, et est capable, en plus il a plutôt une bonne frappe de loin, capable vraiment d'être le box-to-box, mais qui va pas juste faire des courses sans ballon, qui va aussi les faire avec. Je comprends pas trop ce qu'il fout dans ce club-là. Et je me dis qu'en fait, il coche assez bien les cases à la fois sur le projet de jeu physique, simplement, la capacité à faire des sprints et à être en gros un 8, mais un 8 qui va marquer des buts. Alors, ça va pas devenir employé à Touré, mais capable de faire ses frappes de loin et de contribuer à quelques buts et d'apporter un surnombre et qui, sur le plan défensif, va, entre guillemets, se contenter de respecter le plan de jeu, de bien marquer individuellement, de bien faire les compensations. Je pense même que individuellement c'est meilleur que Freuler. Après, est-ce qu'il serait tout de suite soluble dans un projet de jeu comme ça, je sais pas.
Mais Freuler est peut-être le joueur le moins excitant, en tout cas, du 11 de l'Atalanta aussi.
Oui, totalement. C'est pour ça vraiment que je le mentionne, lui.
Après, les milieux ont vraiment un rôle, les demi-actions ont vraiment un rôle particulier, tellement d'équilibre et de couverture que c'est limite beaucoup plus eux que tous les autres joueurs de l'équipe qui sont dans le contrôle et la stabilité. Donc,
et c'est là aussi.
Ça participe au côté moins excitant.
Et c'est là aussi où l'argument que tu peux m'opposer est de se dire, est-ce que Fofana est pas trop dans la prise de décision individuelle, parfois proche de son but, et parfois presque trop dans le dépassement de fonction qui fait qu'il pourrait mal assurer sa fonction de base, qui effectivement a un truc de l'ombre, d'équilibre, vraiment de lecture tactique du jeu plus que de réelle qualité individuelle avec ballon, parce que on demande même aux défenseurs centraux excentrés d'avoir plus de ballons que ces deux milieux-là. Mais si ça fonctionne, ça peut, je pense que c'est typiquement ce qui peut te faire passer un cap plus que sur d'autres rôles où t'as l'impression qu'en fait tout le monde est presque parfait pour le style de jeu qu'on demande.
Moi, j'ai un peu coupé la poire en deux entre vous deux, parce que Christophe, t'es parti sur un milieu plutôt axial 6-8, Flo est parti sur un mélange de 8-10 avec Buendia, et j'ai choisi finalement un joueur qui est capable de faire un peu les deux, qui est joué d'ailleurs avec Seco Fofana à l'Udinese l'autre soir contre la Juve, c'est Rodrigo De Paul, le milieu argentin de l'Udinese, qui avant était à Valence, que j'ai toujours beaucoup aimé. D'ailleurs, quand il était à Valence, j'ai pas compris le passage Valence-Udinese. Enfin, pourquoi aller en arrière, alors que déjà à l'époque, il montrait beaucoup de talent et disposition à être un vrai joueur de foot, très créatif, assez propre, assez juste. Bon, là, il fait une carrière, du coup, en étant le meilleur joueur de l'Udinese depuis 2-3 ans, avec des chiffres exceptionnels par rapport à ceux de son équipe. Donc, je comprends pas bien pourquoi personne s'intéresse à lui, sachant que ça doit pas être si cher que ça d'aller chercher un joueur comme ça, l'Udinese, qui est un peu en dehors des projecteurs. Il peut à la fois jouer dans les rôles de Renaud Freuler, parce que d'ailleurs, contre la Juve, il me semble qu'il a joué assez bas. J'ai vu un bout de match, hein, j'ai vu les 30 dernières minutes, mais de ce que j'ai vu, il jouait limite à la hauteur de Fofana sur pas mal de séquences. Et d'ailleurs, c'est lui qui restait en contrôle devant la défense quand Fofana partait vers l'avant. C'est aussi un joueur qui peut jouer dans les deux plus hauts derrière l'attaquant. Si t'imagines qu'il peut prendre la place de Gomez, de Papu Gomez, pour retrouver un peu la fonction qu'il avait à Valence à l'époque. Franchement, c'est un joueur que... C'est un des vraiment des joueurs en Europe dont je ne comprends pas du tout le parcours. Il y en a quelques-uns comme ça. Il y a des parcours inversés, parfois tu comprends pas pourquoi certains ont du succès. Rodrigo De Paul, je comprends pas pourquoi il en a pas. C'est pour moi un des joueurs les plus sous-cotés en Europe, parce que j'ai l'impression que chaque été, il y a pas tellement de rumeurs autour de lui. Et qu'un club de Ligue 1 du top 6, top 7 s'intéresse pas à lui, ça m'étonne. Quand on voit parfois les joueurs qui sont recrutés, des joueurs moyens, qui sont récupérés par des Marseille, des Monaco, des Lille, de voir un Rodrigo De Paul encore à l'Udinese alors que d'autres joueurs sont déjà dans des clubs qui vont jouer l'Europa League, les Ligue des Champions. Voilà, ça me paraît un peu particulier. Je pense que Christophe, toi aussi, tu le connais bien parce que tu l'as vu à la fois en Espagne et maintenant en Italie.
Même en sélection, d'ailleurs.
Ouais, mais je ne comprends pas ce qui bloque dans son pour aller plus haut. Vraiment.
Hein, je sais pas non plus. Et en plus, alors je sais pas si ça joue, mais il a même pas été formé par un club type River Boca où tu te dirais le mec va, tu vois, comme Gago, j'ai l'impression qu'à chaque fois que ça marchait pas trop en Europe, il avait toujours cette porte de sortie pour revenir à Boca, et puis si ça fonctionne bien, il peut revenir en Europe. Enfin voilà, lui, il a été formé dans un petit club argentin, donc il a même pas cette espèce de porte de secours. J'avoue qu'il doit y avoir un truc qui m'échappe sur, je sais pas, une histoire d'agent, une histoire de lui qui manque d'ambition. Ça peut même pas être Jesus Navas, qui à l'époque voulait pas trop partir de Séville pour des questions personnel, puisque lui est né en Argentine, il n'est pas du tout né du côté de l'Italie. J'avoue que ça me dépasse un petit peu, et comme je disais, en fait, l'aspect sélection pour moi est quand même un marqueur assez important, parce que même si on sait qu'il y a parfois des choix qui peuvent sembler discutables sur la construction de l'équipe d'Argentine, parce que tu privilégies parfois tellement plus le groupe aux individualités que tu te retrouves à faire jouer Enzo Pérez plutôt que X ou Y, mais en fait, les scouts sont amenés à le voir très régulièrement. Donc, en fait, en le voyant, en ayant juste la clé terrain, je vois pas qu'est-ce qui peut empêcher un club, enfin je dis n'importe quoi, mais même Lyon, tu vois, alors peut-être qu'ils y vont et qu'en fait bah Pozzo qui détient aussi Watford a des exigences financières qui sont trop grandes, mais tu vois, enfin t'es alors peut-être pas Paris, mais t'es même Lyon, des clubs comme ça. Marseille, pourquoi pas, enfin, tu sais, tu vas au renseignement, puis, en fait, là, il n'y a même pas de rumeurs, j'ai l'impression qu'ils sortent le concernant, alors que je trouve qu'il, alors, l'Udinese est une équipe assez chiante à regarder, donc faut la voir, mais quand t'es recruteur, tu regardes beaucoup de matchs, donc, je sais pas, même au niveau stats, il ressort pas incroyablement du lot, mais il, enfin, il fournit quand même, tu vois, je regarde les expected assists dans son équipe, il est à 7,80, le deuxième était 3,92, enfin, il fait le double de stats comme ça sur les stats avancées. En but, il a 7 buts, 5 passes en championnat.
L'an dernier, c'était 9,8, la saison d'avant, c'était 4,7. Tu vois, ça fait 3 saisons que pour moi, il doit partir.
Oui, mais il n'aurait même jamais dû arriver, comme tu le disais. Non, mais j'avoue, je comprends pas trop. Mais peut-être qu'un auditeur va nous envoyer un message et qu'en fait, y a une histoire derrière, hein, mais là... question qu'on se pose très régulièrement.
Son agent a aussi, selon Transfermarkt, Angel Correa de l'Atlético et Thiago Almada, qui est un très jeune joueur qui serait suivi et qui serait très prêt à aller à Leeds. Donc, pourquoi ne pas faire un tir groupé, n'est-ce pas ?
Ah bah dans le profil Pablo Hernandez, du mec frisson qui est beaucoup plus doué techniquement que tous les mecs de son équipe et qui malgré tout fait des chiffres fous, ça colle. Hein. C'est un peu la même idée à... en première division, que ce soit en deuxième division, mais franchement, je suis étonné de le voir encore là-bas, alors qu'il a que 26 ans. C'est pas non plus un mec qui est cramé et qui est en fin de carrière. Ce serait le bon moment pour aller le chercher à, je sais pas, à 10-15 millions d'euros. Là, je regardais l'été dernier, il y avait des rumeurs Fiorentina, mais Fiorentina en 2020, enfin, ou 2019, c'est
bah, il y a Rachid Ghezal qui est en ce moment titulaire à la Fiorentina.
Voilà, bon, bah voilà, je m'arrête. voilà pour l'Atalanta. Notre dernier club, c'est le Borussia Dortmund. Borussia Dortmund qui sort d'une saison moyenne, puisqu'ils sont sortis en Ligue des Champions sans grande émotion contre le PSG après un bon match aller, mais un match retour catastrophique, qui est peut-être le pire match de la saison de Dortmund, ce qui fait relativiser le succès du PSG. On en parlera peut-être un peu en fin d'émission. Et là, par contre, Florent, on a choisi tous les trois des postes différents, et toi, tu as choisi un joueur qui était également apparu dans mes recherches, qui était trop cher sans doute pour les clubs français où on aurait pu l'envoyer, mais qui pourrait être pile dans le budget de Dortmund.
Oui, alors j'ai lu des rumeurs où ça l'annonçait quand même déjà à 30-35 millions, donc ce serait la grosse recrue de l'été de Dortmund. Ils en ont déjà fait des recrues à ce niveau-là, mais faut pas non plus monter beaucoup plus haut. C'est un joueur de 22 ans qui est milieu de terrain à la Z Alkmaar, où en fait il peut jouer soit milieu de terrain, comme je viens de le dire, mais aussi en défense centrale, avec un excellent pied gauche et surtout un excellent jeu long. Et c'est vrai que quand tu vois aujourd'hui Dortmund et que tu vois l'équipe, bon, les postes devant, t'as l'impression qu'ils sont bien fournis et même si Sancho doit partir, ils ont déjà Reina pour prendre la suite et se réinstaller en pointe. Donc il y a pas forcément, peut-être pas en tout cas de besoin. Derrière aussi, il y a quand même du monde, même si lorsque Favre passe avec une défense à 3, ils peuvent être courts en défense centrale, mais justement la polyvalence de ce joueur-là peut permettre d'apporter une solution dans ce domaine. Mais c'est vrai qu'au milieu de terrain, je trouve que c'est une équipe qui en gros a des pépites, a des prospects partout, mais n'en a plus forcément au milieu de terrain. Et je pense au milieu de terrain axial, parce qu'il y a Witzel qui a 31 ans, ensuite il y a Thomas Delaney qui est un bon joueur de Bundesliga, mais tu sais exactement ce qu'il va faire, tu t'attends pas à ce qu'il progresse. T'as Mo Daoud qui malheureusement ne donne plus l'impression d'être en capacité de progresser alors qu'il a 24 ans. Alors évidemment aujourd'hui la paire que Favre aime aligner, c'est Witzel et Brandt, mais je me dis que ce serait intéressant d'ajouter un prospect, un joueur à développer dans ce secteur de jeu, et c'est pour ça que j'ai pensé donc à ce milieu de la Z qui s'appelle Teun Koopmeiners, donc milieu de terrain capable de jouer en défense centrale comme je le disais. Pied gauche, joueur capable de marquer pas mal de buts parce qu'il tirait les coups de pied arrêtés et notamment les pénalties avec la Z cette saison. On est quand même sur un milieu à vocation défensive qui a marqué 11 buts cette saison et ajouté 2 passes décisives. Voilà, ça c'est un petit bonus qui peut être pris en compte. Mais c'est surtout sa capacité à jouer long qui m'a intéressé. Le gars, il est à plus de 6 passes longues par match. En gros, à l'Atlético aujourd'hui, il y a qu'un seul joueur qui le fait, c'est Mats Hummels. Et avoir un deuxième joueur avec cette capacité-là à jouer long, quand t'as des dévoreurs d'espace comme Sancho à droite, même s'il va peut-être partir, Mais comme Haaland devant, qui est capable aussi de prendre la profondeur avec son profil de cyborg, je me dis que ajouter Coupe Miners dans ce jeu-là, dans ce style-là, tout en sachant qu'il faut quand même, enfin qu'il a encore une marge de progression, encore un palier à franchir, mais ça leur mettrait, ça ferait au moins venir dans cet effectif un gars capable d'être dans la rotation dans un premier temps. Et peut-être ensuite de remplacer Witzel pour les 5-6 années à venir lorsqu'il s'agira de penser à la succession du Belge.
Je reprends la main, Florent, pour continuer personnellement, puisque j'ai un milieu de terrain aussi, mais un milieu de terrain offensif un peu plus avancé, qui pourrait permettre de garder un Brandt un peu plus bas ou de continuer avec Witzel et un autre, mais qui rentre un peu dans le profil de Dortmund du joueur qui n'est pas forcément allemand, qui est étranger, qui n'a pas réussi à percer dans son pays, et qui va venir à Dortmund pour se remettre en avant après une belle saison, pourquoi pas dans un championnat plus bas. C'est Marcus Edwards, le milieu offensif formé à Tottenham et qui joue au Victoria Guimaraes, je crois, cette saison, si je ne m'abuse, que j'ai regardé via Stat et via Westcout, qui est un super joueur de ballon, qui a un excellent pied gauche, capable d'éliminer, capable de s'orienter entre les lignes, de recevoir le ballon sous pression, de feinter pied droit pour finir pied gauche et inversement. Il est souvent d'ailleurs dans la feinte du pied droit pour revenir pied gauche et trouver un partenaire. C'est un mec qui pourrait un peu rentrer dans ce profil à la Sancho et à la Bellingham de l'anglais qui va venir à Dortmund se remettre vraiment dans la lumière avant de retourner en première ligue dans un club de son vrai niveau. Là, il est sur une saison à 7 buts et 5 passes décisives dans le championnat portugais. Alors à nouveau, il faut relativiser les chiffres du championnat portugais parce qu'il ne s'adapte pas toujours dans les autres championnats. Mais en tout cas, en termes d'impression visuelle et de qualité technique, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont une telle facilité balle au pied et qui sont dans un club comme le... Je vais vérifier quand même que c'est bien ça, mais je crois que c'est bien ça parce que j'ai regardé il y a quelques minutes, ouais, c'est ça, Victoria Guimaraes, qui sont autant au-dessus du lot dans un club de ce niveau-là, qui en plus n'est pas parmi les meilleurs clubs du championnat portugais, et pourtant il arrive à briller, un petit gabarit très très vif, très propre techniquement, franchement, un super joueur de demi-espace droit en vrai, qui reçoit le ballon dans cette zone-là, un peu à la David Silva à l'époque, et qui derrière va être à la fois dans la percussion et la création. Donc voilà, Marcus Edwards, ancien de Tottenham, qui d'ailleurs aurait pu être rapatrié il y a quelques mois, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi Mourinho voulait le récupérer contre une trentaine de millions d'euros. Donc voilà, c'est trop cher pour Marseille, Rennes et compagnie. Mais pour le Borussia Dortmund, je pense que ça rentre parfaitement dans le profil que tu récupères à 30-35 et tu revends 60-70 à un club de première ligue dans 2 ans. Christophe, toi, c'est d'ailleurs un joueur qui évolue dans un championnat anglo-saxon que tu envoies du côté des marsupiaux.
Ouais, alors je ne vais pas faire exactement le même topo que j'avais fait pour l'Atlético, mais je trouve qu'il y a quand même une problématique assez analogue, à savoir que tu es plutôt pas mal, voire bon, voire très bon, selon l'échelle que tu prends, sur tous les postes, en gros, c'est-à-dire l'effectif, sans rien toucher. T'es quasiment assuré, si tu fais pas trop de bêtises, de faire 8e de finale Ligue des Champions et top 3 de ton championnat. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour améliorer avec les moyens qui sont les tiens, qui sont intéressants, mais qui sont pas ceux des 4-5 clubs les plus puissants financièrement et les plus attractifs non plus, et avec un projet assez défini. Alors, au niveau de l'Atlético, c'est sur le style de jeu. Là, Borussia, c'est plus sur les tranches d'âge visées. Avec encore, je crois que c'est Bellingham qui s'appelle le joueur de 17 ans qu'ils ont pris pour 25 millions.
Jude Bellingham de Birmingham.
C'est ça, qui pour son poste et pour son âge a un profil très rare, parce que les joueurs qui émergent à cet âge-là, d'habitude, même en championship, sont encore beaucoup plus offensifs que ça. Lui est plus un petit peu plus bas sur le terrain au milieu. Mais moi, en fait, j'analysais l'effectif et je me disais que depuis quelques saisons, en fait, Dortmund, c'est un petit peu comme du côté du Bayern. Il y a une énorme chance qui est que l'attaquant de pointe ne se blesse pas nécessairement. Alors, ça peut être à nuancer parce qu'il y a eu quelques soucis à la fois physiques et puis de relations générales de niveau avec Paco Alcacer. Mais sinon, Lewandowski, du côté du Bayern, joue tous les matchs à son remplaçant, c'est Zirkzee, qui est un très bon buteur, mais qui ne sait pas faire grand-chose d'autre pour l'instant sur le terrain, qui n'a, je crois, que 19 ans et qui vient de la réserve. Donc, c'est-à-dire que dès que lui est blessé, en fait, t'es obligé un peu d'inventer. Alors, c'est pas des inventions incroyables, mais en gros, tu mets des ailiers en pointe, quoi. Donc, il faut numéro 9. Enfin, voilà, tu te retrouves avec du Müller, des choses comme ça. Et du côté de Dortmund, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que Haaland est capable de faire toute la saison, s'il a pas de blessure, de répéter la plupart des matchs. Maintenant, sur les autres profils, Hazard, Brandt, Reus. Bon, il y avait Götze, mais je crois qu'il s'en va. C'est du faux numéro 9. Ça change totalement ton approche du jeu. Ça peut, enfin voilà, tu peux parfaitement le justifier dans un projet de jeu penser, mais si c'est fait par défaut, tous les systèmes ne conviennent pas, et tous les adversaires d'ailleurs ne conviennent pas nécessairement au faux numéro 9, parce qu'il faut avoir un profil délié assez défini, etc. Donc du coup, je me dis, à la fois pour avoir de la rotation, et simplement parce qu'une blessure peut être vite arrivée, et qu'est-ce que tu fais si l'un est blessé et que t'as plus de pur numéro 9, je suis parti sur Hudson Edward, qui peut peut-être être un peu surqualifié pour avoir un rôle de doublure maintenant. D'avoir deux attaquants, ça peut aussi t'offrir la possibilité de jouer à deux devant, ce qui n'est pas toujours le projet de jeu, voire même jamais le projet de jeu de Favre, du Bayern, etc. Donc ce sont des équipes qui n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un deuxième très bon attaquant, parce que l'idée c'est d'être à trois devant, et après l'animation c'est selon que tu mets trois ou quatre défenseurs, et donc ça impacte le nombre de milieux, mais sur la colonne vertébrale, sur le plan offensif, ça change pas grand chose. Mais Hudson Edward qui coche à la fois la case du jeune joueur, puisqu'il est né en 98, il a 22 ans, et la case donc que tu pourras revendre, etc. Et en plus, un joueur qui est quand même déjà bon, puisqu'il reste sur une saison à 22 buts en championnat d'Écosse. Alors, c'est le championnat d'Écosse, n'empêche qu'il faut quand même marquer les 22 buts et qu'il en met plus que ses partenaires. Donc, c'est déjà intéressant. Il en a mis 15 la saison dernière. Chez les Espoirs, il casse tout. Je crois qu'il a mis 7 buts en 4 apparitions pour les qualifs de l'Euro. Je crois que c'est de l'Euro, enfin je sais plus, en tout cas les qualifs de quelque chose. Donc vraiment promenade complète, avec notamment un triplé face à la Slovaquie. Il doit passer un cap. Alors j'ai vu qu'il était annoncé, évidemment. Enfin j'ai tapé là quand vous parliez sur Google Actu, je regarde un petit peu ce qui émergeait. Ça parle d'Arsenal, ça parle de Leeds. Maintenant tu tapes Arsenal, t'as un milliard de noms qui ressort, donc je sais pas si c'est un truc que tu dois prendre pour argent comptant. Je me dis que dans l'absolu, pour lui, ça peut être une étape assez intéressante, parce que Dortmund c'est en le marchepied, la dernière étape avant Barça, Real, etc. Et pour le club, ça peut être le moment d'avoir vraiment un deuxième attaquant et d'arrêter de bidouiller avec Royce faux numéro 9 dès que ton attaquant est un petit peu fatigué ou un peu blessé.
Sachant que Haaland part l'été prochain à coup sûr, donc parce que je le vois pas refaire deux saisons à Dortmund.
S'il fait la même qu'il a fait ces 6 mois, pas 6 mois, mais oui, c'est effectivement. Effectivement, je pense qu'il est programmé pour aller très vite plus haut, quoi.
Voilà, donc pourquoi pas Hudson Edward pour prendre un peu d'avance, être dans la salle d'attente et derrière récupérer le poste d'Haaland pour pourquoi pas suivre un parcours similaire avec quelques années de retard tout de même. Il y avait eu un passage difficile à Toulouse pour Hudson Edward, qui d'ailleurs est souvent un passage difficile Toulouse pour tous les joueurs qui vont. Dernier qui a réussi là-bas, je crois que c'est Rabiot. Alors, juste avant qu'on parte sur un petit mot sur PSG Saint-Etienne et derrière les paris, juste un petit point sur certains joueurs qu'on a identifiés d'ailleurs tous les deux, Flo, à travers des stats, parce que j'ai parlé de certains avec des recruteurs de Ligue 1. Alors il y avait Daniel Sinani, le luxembourgeois de Dudelange, qui a signé à Norwich depuis. Alors ça, il avait déjà signé, donc les clubs français s'y sont pas intéressés. Oumar Sadik, ça semble trop cher, puisqu'il était annoncé à 15 millions d'euros récemment, je ne sais plus où. Mais c'est un profil intéressant. Peut-être qu'on le verra assez rapidement en Europe occidentale, Flo.
C'est un profil très... C'est un mec qui a déjà beaucoup voyagé, quoi. Je crois qu'il est déjà 6-7 clubs depuis le début de sa carrière en Europe.
Mais à la fois très grand et plutôt adroit balle au pied, parce qu'il claque des passements de jambes avec son 1m90. Et c'est assez étonnant à voir. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme profil dont j'ai parlé ? Il y aurait Jiran Okerk, qui est un ailier aux Pays-Bas, qui est annoncé comme plutôt intéressant, mais dont les clubs français craignent le QI football assez léger. En tout cas, c'est ce que m'ont dit les 2-3 recruteurs à qui j'ai parlé. C'est très bon profil d'ailier, très explosif. Par contre, QI foot et choix de passe, très 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 compliqué. Dans le profil ailier, il préfère Ejuke, qui joue à Rennes d'ailleurs, comme Botman, dont on m'a dit beaucoup de bien, qui est annoncé, à 8-9 millions d'euros, et qui pourrait être vu rapidement dans un club un peu plus huppé, parce que en tout cas, des profils ailiers que j'ai proposés aux recruteurs, ils m'ont dit, lui, c'est vraiment bien, c'est vraiment top. C'est peut-être un peu trop cher déjà, mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, à suivre Shidera et Jouquet. Botman, j'en ai parlé aussi, il y avait des petites réserves de la part d'un recruteur d'un club de Ligue 1 qui adhérait pas spécialement au profil. Alors après, à voir comment ce sera s'il vient en Ligue 1 et comment il va s'adapter. Il m'a parlé d'Obispo, non pas le chanteur, mais un autre central qui joue aux Pays-Bas, gaucher, que j'ai pas eu le temps de voir malheureusement, mais peut-être que certains de nos éditeurs sauront nous dire quelque chose sur Obispo ou se renseigner. Chez les attaquants, il y avait Vangelis Pavlidis, attaquant grec, dont j'ai déjà cité le nom tout à l'heure, qui était suivi par un club français, en tout cas récemment, mais qui finalement n'a pas été pris. Et les 2-3 recruteurs à qui j'ai parlé, 2 clubs différents d'ailleurs, m'ont donné les mêmes réserves. C'est-à-dire que c'est un attaquant qui a une bonne taille, qui peut être intéressant en Ligue 1, mais qui est encore très brut. qui est à la fois grande taille et capable de dribbler, donc il y a une petite redite avec Oumar Sadik, mais en moins doué quand même. Puis après, je suis allé voir un peu du côté du championnat russe. Alors, avec évidemment notre ami Samuel Gigot, qui fait partie des footballeurs avec un nom de viande. Il y en a quelques-uns comme ça. Vous pouvez nous envoyer vos suggestions aussi sur Twitter ou sur Discord. Par contre, chez les autres centraux, et là, les centraux russes, on m'a dit beaucoup de bien de Filip Ouremovic. Donc, s'il y a des gens de Footballski qui nous suivent, ils pourront nous en parler. Central gaucher, qui est un peu dans un profil qui ressemble à Sulip Botman, c'est-à-dire le gaucher relanceur, dont on m'a dit pas mal de bien et qui pourrait peut-être être vu en Europe bientôt. Et des attaquants Chomurodov, attaquant russe, Eldor Chomurodov, qui apparemment était suivi par Lyon il n'y a pas longtemps, qui est un peu lourdeau, mais qui pourrait très bien s'adapter à la Ligue 1, on m'a dit. Attaquant qui est évalué à 5 millions sur Transfermarkt, donc c'est déjà un peu cher, je pense, dans la réalité. Mais voilà quelques noms, si vous en entendez parler bientôt, bah, en tout cas, vous aurez eu quelques billes là-dessus. Il y en a d'autres que j'ai pas poussé parce que c'était pas des profils qu'on cherchait dans les clubs en question. João Teixeira au Portugal, ancien de Liverpool, Bruno Tabata, Fabio Martins, Ricardo Horta, ça devient un peu cher. Heitor Cantalapiedra, un milieu espagnol qui joue en Eredivisie. Et puis après, c'était du Tuncoop Minor, c'est des joueurs qui coûtaient plus cher. Si je retrouve d'autres avis que j'ai eu dans mes messages, je vous en reparlerai, mais voilà quelques noms à suivre qui pourraient débarquer en Ligue 1 et qui permettent aussi de voir, Flo, que finalement il y a des cellules de recrutement, plusieurs d'ailleurs, qui bossent plutôt correctement, mais parfois elles sont pas forcément suivies par les décideurs. Faut le noter ça aussi.
Oui.
Parce que de tous les joueurs que j'ai proposés, 90% les mecs m'ont dit ouais, je l'ai vu, on allait le voir, on l'a vu sur Westcout, je peux t'en parler. On m'a envoyé des rapports assez précis sur certains joueurs. Avec des détails, vraiment des trucs intéressants sur Chomurodov, même sur Nsame, j'en ai parlé avec un recruteur. Mais voilà, entre le moment où le recruteur va le voir, où la cellule de recrutement va le voir, et le moment où les décideurs vont activer un transfert, il y a 1000 intermédiaires plus ou moins intentionnés correctement, quoi.
Ouais, il y a 1000 intermédiaires, et il y a aussi le moment où le besoin se fait sentir en haut, en fait, dans la direction. C'est-à-dire que je pense que la plupart des joueurs que tu viens d'évoquer, ça fait plusieurs mois qu'un recruteur va en avoir parlé, va avoir fait un rapport sur le gars, etc. Mais s'il n'y a pas le besoin dans l'équipe première de choper ce gars-là, enfin voilà, faut que les deux se rencontrent pour choper le mec au bon moment, parce que le gars peut avoir fait le rapport 6 mois avant, et puis un jour le coach va dire au directeur sportif « Ah ben j'ai besoin de tel profil », et là le gars va sortir ce nom-là, mais ce nom-là il a peut-être déjà fait un transfert et il vaut peut-être déjà beaucoup trop cher pour le club en question.
Voilà, et puis pour parler de celles de recrutement qui sont complètement pas suivies ou qui sont foireuses, on peut toujours interroger Flo parce qu'il connaît Bordeaux.
C'est très enfin, bien. Maintenant, il n'y a plus de cellules de recrutement à Bordeaux.
Oui, parce qu'il n'y a plus rien à Bordeaux.
C'est bien, ça résout les problèmes.
Non, mais vous avez un directeur sportif, par contre.
Bah non, pas pour l'instant. C'est pas fait.
D'accord.
Pour l'instant, il n'y en a pas.
On en parlera quand ce sera fait ou quand ce sera pas fait, définitivement. Un petit mot, juste un petit mot sur Paris Saint-Etienne, Christophe.
Oui. Ouais, les gens étaient un petit peu indignés, choqués, etc., de se dire, tiens, ils mettent une finale quand même d'une coupe prestigieuse le vendredi pour mettre Fort Boyard le samedi. Bah écoute, j'ai vu les deux, et clairement beaucoup plus de spectacles à Fort Boyard que sur la finale de coupe. Match qu'on a d'ailleurs... Je parle en mon nom, mais dans l'absolu, on s'est fait un live ensemble de Fort Boyard avec même un suivi poussé de l'After Fort derrière. Et clairement, beaucoup plus de plaisir pour ma part à voir Jérémy Ferrari propulsé dans les airs et jeter un ballon de basket dans un panier aérien plutôt que de voir Paris essayer de jouer face à 10 Stéphanois venus avec beaucoup d'ambition dans le domaine physique. Donc j'aime beaucoup le foot, mais ce foot-là ne m'a pas passionné.
Merci, on reparlera de toute façon du PSG bientôt, puisqu'il y aura aussi la finale de Coupe de la Ligue contre l'Olympique Lyonnais. Les paris avec notre partenaire PMU.fr, c'est le moment des pronos.
PMU vous présente la séquence pronos.
Les pronos donc, où on va évoquer quelques-uns des matchs qui restent dans cette saison de football. Et là, ça va être des matchs de coupe, vous avez tous les deux les mêmes matchs. Je vais commencer plutôt par Christophe, je vais laisser la main au padré en fait, du Paris Game récemment, parce que Christophe, t'es vraiment le roi des paris cette saison, rien ne t'arrête. Dis-nous tout et commence par Paris-Lyon pour rester proche de nous au départ.
Ouais, en fait, ce que j'ai vu du match de Paris m'a montré deux choses. Enfin, une chose surtout, qui était que des joueurs parisiens pouvaient aller vite, notamment Kylian Mbappé, et que des joueurs adverses pouvaient aller lentement, notamment Loïc Perrin. Alors, c'était pas une révélation, mais en fait, ça a confirmé que pose ou pas, il y a quand même des différentiels physiques qui se manifestaient. Et du coup, j'imagine, alors même si ça sera pas les deux mêmes protagonistes, puisque l'un ne jouera plus et ne jouera pas cette finale dans tous les cas, et l'autre sera blessé. Mais je me dis qu'il y a quelques défenseurs lyonnais qui ont aussi parfois des problèmes de vivacité, des tendances à tendre la jambe un petit peu au mauvais moment. Alors là, il n'y a pas eu penalty, il y a eu carton rouge et blessure sur l'action en question. Mais mon pari, c'est qu'il y aura un but sur penalty, c'est coté à 2,60. Parce que la vivacité parisienne, notamment, alors c'est très bien tombé dans l'autre sens, hein, mais je le vois plus dans ce sens-là. La vivacité parisienne et la capacité, malgré tout, à investir, je pense, sur des assez longues séquences, le camp adverse fait que, bah, mécaniquement, t'as plus de chances d'avoir une petite faute qui sera sifflée en ta faveur. Comme je le disais, face à des défenseurs qui seront moins vifs que tes attaquants, je pense que Neymar va en embêter plus d'un. Et le fait simplement de regarder les championnats depuis la reprise, et qu'en fait, il y a, alors je vais pas les stats sous les yeux, mais il y a des pénalties à peu près tout le temps, notamment en Serie A, où il n'y a pas un match sans un pénalty. Donc du coup, je pense qu'il y a une forme, qu'en gros, la normalisation des cotes est en cours, mais que malgré tout, 2,60, je pense que si tu mets un pénalty, sera marqué dans tous les matchs de Serie A notamment, mais même dans tous les matchs d'Europe. Je pense que, sans distinguo de match, je pense que tu peux être en positif. Et sur l'idée qu'en gros, un match... qui me semble quand même déséquilibré, même si Paris a pas été très impressionnant, qu'il puisse y avoir un penalty qui soit marqué dans le genre Paris safe, c'est pas trop moche, donc 2,60, ça me paraît intéressant.
À toi Flo de nous donner ton pari sur le Paris Saint-Germain Lyon finale de Coupe de Ligue qui se déroule samedi ou dimanche, je ne sais même plus.
Vendredi.
À vendredi, bah c'est tous les vendredis.
Bah Fort Boyard. Hein.
on passera un très bon moment samedi soir, on sera là.
Priorité au Fort. Oui, sur PSG Lyon, je me suis focalisé. Enfin, j'ai pris mon inspiration, qui est pas forcément la meilleure hein, depuis la reprise et même sur l'ensemble de la saison. Mais bon, mon inspiration, quand même, c'est par rapport au match entre le PSG et Saint-Etienne et le fait que à 1-0, le PSG a perdu Mbappé sur blessure, mais n'a strictement rien fait pour essayer d'accroître son avance. J'ai pas souvenir d'une véritable grosse occasion des Parisiens, alors qu'ils avaient l'avantage au score. C'est même Saint-Etienne qui était plus proche de l'égalisation. Et je me dis que sur ce match-là face à Lyon, je pars dans l'idée que l'Olympique Lyonnais marquera le dernier but de la rencontre. Soit parce que Paris sera en cruise control, parce qu'ils auront fait la différence rapidement, ou alors parce que Lyon s'accrochera et mettra le dernier but pour revenir au score en deuxième mi-temps, ce que n'a pas réussi à faire Saint-Etienne par exemple, ou alors peut-être pour l'emporter, qui sait. Donc voilà, l'idée c'est de dire que Lyon marquera en dernier, d'autant plus que les Lyonnais, je pense, seront peut-être plus en jambes que les Parisiens, parce qu'ils ont quand même repris beaucoup plus tôt, et eux, leur prochaine échéance sera là aussi un peu plus tôt que celle du PSG, puisque Lyon aura un match le vendredi suivant, je crois que c'est leur huitième de finale de retour de Ligue des Champions. Donc voilà, l'OL qui marque en dernier dans ce match, la cote est à 2,80.
Merci Flo pour ce deuxième pari sur PSG Lyon. Et l'autre match que nous allons évoquer, Christophe, c'est Arsenal-Chelsea, finale de Coupe d'Angleterre.
Oui, avec un pari pour moi qui sera que les deux équipes marquent en seconde période à 3. Alors j'hésite entre les deux périodes, c'est même pas improbable que le truc se passe dans les deux. Ce qui m'a fait décider pour la deuxième solution, la deuxième période, c'est que s'il y a 2-1, l'équipe qui est menée va faire monter son gardien, et donc tu peux imaginer un but en contre. Donc il y a un scénario où il y a un 2-0, l'autre équipe revient à 2-1, mais il y a 3-1, et donc du coup les deux équipes se retrouvent à marquer en seconde période. Ça c'est pour le choix entre les deux hypothèses, et en fait bon, ça naît notamment de l'énorme fragilité défensive de Chelsea, qui est quand même plus ou moins associée à une force de frappe offensive qui fait que Chelsea ne perd pas tous ses matchs, mais donne pas mal de spectacles. Le dernier que tu as vu, sur lequel on va pas revenir, mais la défaite 5-3 face à Liverpool. Alors les buts de Liverpool, je vais pas dire qu'ils sont tous insortables, mais c'est un peu un top but pour la plupart d'entre eux. Donc c'est pas scandaleux sur la réalisation, mais la manière dont ils sont amenés et les autres occasions, parce que notamment raté de Van Dijk à 3 mètres du but vide sur un coup de pied arrêté, ou Kepa, je sais pas ce qu'il faisait, mais visiblement il était pas intéressé par le fait de suivre le match et d'éventuellement intervenir sur la balle. Donc ce 5-3 qui fait suite à une victoire 3-1 face à Manchester. Alors il y avait une victoire 1-0 avant, mais il y a eu une défaite 3-1, 3-0 face à Sheffield, une victoire 3-2 face à Crystal Palace, une victoire 3-0 face à Watford, une défaite 3-2 face à West Ham. Enfin voilà, il y a beaucoup de matchs avec des gros scores. Et je me dis qu'Arsenal, qui pense quand même beaucoup, beaucoup à ce match de coupe, qui est un peu moins spectaculaire, mais enfin tu vois, parce qu'en plus il n'y a pas eu de tir cadré face à Aston Villa sur le dernier match, mais face à Manchester City, j'ai vu des prises de risque avec ballon, comme je disais il y a lors du dernier épisode, où je me disais bon, ça a bien tourné, mais ça peut très bien mal tourner, et David Luiz fera peut-être pas que des gros matchs où c'est quand même un peu sinusoïdal la courbe de ses performances. Je reste sur l'idée qu'en gros la folie de Chelsea, qui a Pulisic d'un côté, mais qui a un peu des tanges de l'autre, peut prévaloir sur la relative maîtrise et contrôle du tempo qu'espère avoir Arsenal.
Florent, à ton tour de donner ton pari sur Arsenal-Chelsea.
Ouais, alors sur Arsenal-Chelsea, j'imagine un match... Alors l'avantage, c'est que mes paris, j'y crois un peu parce qu'ils sont dans la continuité un peu de ce que dit Christophe. En tout cas, ils ne vont pas en contradiction avec les paris de Christophe. Donc ça, c'est déjà un point positif. Mais l'idée, c'est de partir sur l'idée donc que ça va être une rencontre assez serrée parce que Arsenal va jouer sa saison quasiment sur ce match. Chelsea, faut espérer pour eux que les choses se passent bien ce dimanche pour qu'ils soient dans les quatre pour la Ligue des Champions. Mais du coup, l'idée, c'est de partir sur le fait que le match sera très serré et qu'il se débloquera seulement en prolongation. Alors moi, j'imagine tout à fait une partie où ça se termine à un but partout ou deux partout pendant les 90 minutes. Ça part en prolongation et par contre, la décision se fait durant la prolongation. Voilà, en faveur de Chelsea ou d'Arsenal, je ne sais pas. C'est l'avantage de ce pari, puisque le pari, c'est de dire que Arsenal ou Chelsea va gagner après prolongation. Donc, l'idée, c'est de partir sur un match nul et le match qui se règle ensuite dans les 30 minutes restantes. Parce que je pense que d'un côté ou de l'autre, en prolongation, les individualités prendront peut-être le pas sur les deux collectifs. Et donc, la décision sera faite pendant ces 30 minutes-là. Mais je ne serais pas surpris que dans les 90 précédentes, ça reste assez fermé, ça se réponde, mais qu'il n'y ait pas d'équipe qui prenne vraiment l'ascendant avec une victoire assez large. Donc voilà, un vainqueur après prolongation, la cote est à 5,60.
Merci à vous messieurs pour vos quatre paris au total. On sait très bien que Christophe finira la saison champion des paris, donc maintenant on le fait vraiment pour le plaisir, même si Flo avec cette cote à 5,60, tu peux peut-être tout renverser. Merci messieurs pour ces deux paris. Florent, quel est le programme des jours à venir? On rappelle que là on enregistre ce podcast, on le précise, le dimanche 26 juillet, mais qui sera sorti sans doute le lendemain. Mais qu'est-ce qui nous attend du coup la semaine qui commence le 27?
Alors qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Nos abonnés sur Patreon vont avoir droit à la fameuse FAQ, puisqu'on arrive à la fin du mois de juillet, donc fin de mois, toujours une FAQ qui tombe. Et ensuite, Raphaël, je pense, selon ce qu'il se passe en fait, lors de la rencontre entre le PSG et l'Olympique Lyonnais vendredi soir, peut-être qu'on fera une émission spéciale sur ce match-là, histoire d'évoquer les forces en présence et l'état des deux clubs français qui joueront la Ligue des Champions avant, à une semaine de la reprise de la Ligue des Champions avec les huitièmes de finale retour. Et puis, si le match est pas forcément intéressant, peut-être qu'on attendra le début de la semaine suivante pour proposer un autre gratuit qui sera le dernier gratuit avant qu'on rentre dans notre période spéciale Final 8 de Ligue des Champions où on produira un podcast chaque soir de match de Ligue des Champions jusqu'à la finale le 24 août prochain.
Oui, parce qu'il faut préciser que la semaine qui arrive, Christophe va prendre ses premières vacances depuis 2012. Donc on le laisse un peu profiter. Où est-ce que dans quelle région ça va finalement, Christophe?
Eh bien écoute, il y avait des vraies ambitions d'aller autour du Puy-de-Dôme. Enfin, au départ, je voulais aller vers la Slovénie, mais en fait, tu sais pas si les frontières vont pas être fermées à un moment. Donc si tu vas en voiture et que genre on ferme l'accès à l'Allemagne et que tu es obligé de faire un détour de 4000 km, ça sera un petit peu embêtant. Du coup, l'objectif c'était d'aller en Auvergne, sauf que quand tu réserves et que tu cherches des locations avec un budget comme le mien, 3-4 jours avant, c'est assez compliqué. Donc du coup, je me retrouve à Roanne. Clairement, ça fait pas rêver, mais pensez pour tous les gens de Roanne. Hein, je vais peut-être découvrir des choses sympas, mais Roanne en tant que tel, c'est pas fou. Mais j'ai une voiture, donc du coup, ça va bouger un petit peu. Mais rien ne vaut les vacances avortées à Oléron qui n'ont pas eu lieu à cause de ta blessure.
Oui, bah écoute, j'aurais aimé que ça se passe autrement. Hein, vraiment, il n'y a personne d'aussi triste que moi que ça se passe pas comme ça, enfin que ça se passe comme ça plutôt, parce que ça a un peu ruiné tous mes plans, non seulement cet été, mais peut-être pour la suite de l'année 2020, peut-être 2021 même. Voilà,
c'est... Et les nôtres.
La joie du ligament croisé, qui quand même me fait découvrir des anciennes émissions de Fort Boyard et je vous ai un peu embrigadé dans là-dedans. C'est un des rares petits plaisirs de cet été. Merci à vous deux, messieurs, pour ce podcast. On se retrouve donc très rapidement et on vous dit à bientôt. Ciao.
Ciao.
Et bien cordialement.
Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.